Les musiques qui accompagnent, oui, vous les avez achetées au rabais ou quoi?
Écoutez, justement, vous savez, le budget son n'est pas énorme.
Oui. Excusez-moi. Écoutez, Sébastien,
on
régime,
les bruite que... nous-mêmes, on a un ordre bon temps.
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ça coûte moins cher.
Je suis heureux de vous retrouver en tous les cas, Eva Rock.
Moi aussi.
Merci beaucoup, Mathieu Noël. Bonjour, Céline Dacosta.
Bonjour, Nikos.
C'est un plaisir de vous voir. Et Laurent Cabrol, mon
plaisir
Laurent.
Partagé.
Salut.
Première météo de la matinale, de cette matinale de 2019. Comment sera le temps, le ciel, le soleil, les nuages? Racontez-nous tout.
Non, je ne vais pas vous le dire.
Et la neige.
Je ne vais pas vous le dire, c'est tout gris. Qu'est-ce que je vous dis?
Merci d'être venu, voilà. Et bonne journée.
C'est tout gris et puis c'est pas très agréable. Alors, je vais vous proposer quand même une météo décartable pour les mamans qui s'apprêtent à habiller leurs enfants. Moins 5 à Aurillac, moins 4 à Millau en ce moment, moins 3 à Figari et à Rodez, 0 à Albi, 1 à Toulouse, 2 à Biarritz, 3 à Cognac, 4 à Marseille, 6 à Caen. Et 7 à Paris et Nice. Vous voyez que Paris et Nice sont les villes les plus douces de la matinée. C'est assez curieux, enfin c'est comme ça, parce qu'on dirait que sur Paris, il y a une couche de nuages, elle est assez épaisse, c'est moins qu'on puisse dire. Je vous parlerai tout à l'heure des bruines qui sont présentes ici ou là, et puis j'évoquerai aussi les chutes de neige qui s'annoncent pour la semaine. On n'est quand même pas trop à se plaindre à ce niveau-là. Bon. Vous dire que le ciel est gris, sauf, et il le restera gris toute la journée, sauf sur le bassin méditerranéen, sur les Alpes et sur les Pyrénées, mais partout ailleurs, c'est du... C'est du gris.
Merci beaucoup. Entre gris clair et gris foncé, il y a toujours Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
Le prochain point météo, ce sera juste avant le journal de 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous. Content de vous retrouver en ce lundi 7 janvier pour ma première matinale de 2019. Je vous souhaite une très belle année, un bon réveil. Avec au programme de ce 7-9, un lundi de reprise, peut-être que vous êtes sur le point de réveiller vos enfants. Pour reprendre le chemin de l'école, pas facile effectivement de s'y remettre après les fêtes. Mais comment font les profs pour remobiliser leurs élèves? On va passer un petit coup de fil à une maîtresse de primaire dans quelques instants dans le journal de 7h avec Hélène Zélani. L'actualité, c'est aussi bien sûr le retour des violences en marge des mobilisations des Gilets jaunes. Deux images très fortes qui ont fait le tour des médias ce week-end. Un ministère attaqué, un gendarme roué de coups. On y revient dans le détail, dans nos éditions, puis à 7h40 avec Jean-Michel Apathy. Et puis, dernière semaine, avant le lancement du grand débat national, à quoi va ressembler cette grande consultation souhaitée par le président de la République? Réponse avec celle qui est aux manettes, Chantal Jouannou. Elle sera l'invitée politique d'Europe 1 à 8h15 avec Audrey Crespo-Mara. Voilà pour le sommaire. Je vous envoie de bonnes ondes. Bon réveil à tous. C'est reparti. 2 heures d'infos sur Europe 1. Ça commence maintenant.
Excellent début de semaine à tous à l'écoute d'Europe. Il est 7h01, bienvenue. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Un plaisir de vous retrouver, Hélène Zélani, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Un manifestant qui boxe 2 gendarmes samedi sur les quais de la Seine, cet ex-champion du ring est toujours recherché. La pédophilie dans l'église, le cardinal Barbarin comparé à partir de ce matin à Lyon pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Et puis un réveil pas forcément facile pour tous les enfants qui retournent à l'école ce matin.
Europe 1.
Ça restera l'une des images marquantes de ce week-end, acte 8 du mouvement des Gilets jaunes. Ce manifestant qui, sur un pont parisien, frappe violemment 2 gendarmes dont l'un à terre. Il a été identifié mais pas encore arrêté. Pauline Jacquot, c'est un ancien boxeur professionnel.
1m92, 91 kg, l'homme de 37 ans, surnommé le gitan de Massy, n'a plus enfilé les gants depuis 7 ans. Après un combat perdu, il arrête, lui qui a été successivement champion de France, amateur, puis professionnel. À 14 ans, il croise la route de celui qui allait devenir son entraîneur sur les rings de Massy dans l'Essonne. Christophe D se fait remarquer par Jackie Trompsos. Les deux hommes se lient d'amitié. Aujourd'hui, son ancien entraîneur a beaucoup de mal à reconnaître son boxeur.
Il était gentil, très très respectueux. Tout. Alors si il a fait ça, je ne peux qu'associer ça à un garçon qui a vu une injustice, c'est-à-dire des femmes, des retraités, se faire gazer, se faire taper. C'est tout, ce garçon-là, c'est pas lui, c'est un garçon gentil.
Père de 3 enfants, employé de mairie, Christophe n'a rien d'un casseur, d'un voyou, dit-il. Son ancien entraîneur a tenté de le joindre à plusieurs reprises sans réponse. Il voulait lui conseiller de se rendre à la police pour s'expliquer et donner sa version des faits.
Pauline Jacquot, à Toulon, le préfet du Var a saisi l'IGPN, la police des polices, après la diffusion d'une vidéo dans laquelle on voit un commandant divisionnaire en train de frapper des manifestants. Récemment décoré de la Légion d'honneur, il ne fait pas l'objet d'une enquête. Le procureur estime que le contexte était insurrectionnel et qu'il a agi proportionnellement à la menace.
Et hier, ce sont les femmes gilets jaunes qui ont manifesté dans la rue de plusieurs grandes villes.
Oui, Paris, Lyon, Rennes, ou Toulouse, parfois coiffées d'un bonnet phrygien, au cri de « Macron, t'es foutu, les gonzesses sont dans la rue ». Elles ont surtout voulu montrer une image plus calme et pacifique du mouvement. Europe 1, il est 7h03.
9h30 ce matin, le procès du cardinal Philippe Barbarin doit s'ouvrir devant le tribunal correctionnel de Lyon.
Oui, avec 5 anciens membres du diocèse, il est poursuivi pour ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles commises dans les années 90 par le père Prenat sur de jeunes scouts. Pierre-Emmanuel Germain-Thil fait partie des victimes.
Si je pouvais m'adresser à lui, je lui dirais, mais pourquoi quand quelqu'un vous avoue qu'il a été pédophile, qu'il a abusé d'enfants, vous lui faites une promotion en tant que doyen de plusieurs paroisses derrière? Pour moi, ça c'est de l'irresponsabilité. Je veux dire, c'est comme dans une entreprise où quelqu'un fait une faute très grave. Là, on parle vraiment d'abus sur enfants, qu'on vous avoue et vous faites une promotion à cette personne derrière. C'est lui donner encore une légitimité et ça pour moi c'est extrêmement grave. Je pense qu'un vrai mea culpa serait bienvenu, ce serait important. C'est quand même des personnes qui ont su, qui ont tué, qui n'ont pas forcément dénoncé, qui n'ont pas agi dans les temps et qui se sont un peu refilé la patate chaude pendant plusieurs années. Il faut que ce genre de choses s'arrête et change, quoi.
L'une des victimes du père Prenat, interrogée pour Europe 1 par Jean-Luc Boujon hier lors des vœux du diocèse de Lyon, le cardinal Barbarin a demandé au Seigneur que s'accomplisse le travail de la justice et qu'il guérisse le cœur des victimes d'actes de pédophilie.
Et puis à 7h20, on va se poser cette question, Hélène Zellani. Qu'a fait l'Église depuis l'affaire Barbarin? Ce sera le thème d'Europe 1 va plus loin avec Virginie Reva.
Le pape François lance un appel à la solidarité européenne pour l'accueil d'une cinquantaine de migrants, dont plusieurs enfants. Ils sont bloqués au large de Malte, à bord des navires de 2 ONG allemandes. Ils ont été secourus au large de la Libye.
C'était il y a 4 ans déjà, les attaques terroristes, notamment contre Charlie Hebdo.
Une cérémonie du souvenir est prévue ce matin en hommage aux victimes de l'attentat, puis pour le lieutenant de police Ahmed Merabet et ensuite pour les victimes de l'hypercacher. Le périple meurtrier des frères Kouachi et d'Amédi Koulibaly avait fait au total 17 morts. Aujourd'hui, plusieurs de leurs soutiens ou complices sont en fuite, notamment Hayat Boumediene, compagne du tueur de l'hypercacher. Elle s'est enfuie en Syrie, Pierre de Cossette.
Étonnante coïncidence, la dernière trace d'Hayat Boumediene, c'est le jour des attentats du 13 novembre, 10 mois après Charlie. De Syrie, probablement, elle discute sur Skype avec une amie en France, lui redit son adhésion à l'État islamique et raconte un quotidien assez sombre, les bombardements, les corps des combattants, les coups de fouet aux ennemis. On est bien loin des premiers échos de son séjour, décrit comme quasi paradisiaque. Les gens sont des diamants, on me traite comme une princesse. Hayat Boumediene a 27 ans et elle fait allusion à son mari, Amédi Koulibaly. Elle sait visiblement ce qu'il s'est passé à l'hypercacher. Tout indique qu'elle était même au courant avant les attentats que quelque chose se tramait. Pour le parquet de Paris, son départ vers la Turquie quelques jours auparavant est un indice. Elle concède alors une rarissime entorse à sa pratique hyper rigoriste de l'islam en voyageant avec d'autres hommes que son mari. Les dernières images que l'on a d'Hayat Boumediene, c'est lors de son arrivée à l'aéroport d'Istanbul. Aujourd'hui, les services de renseignement concèdent qu'ils ne savent pas où elle se trouve. Ils supposent qu'elle est toujours en zone irako-syrienne.
Les informations de Pierre de Cossette.
Et puis Gérard Biard, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, sera mon invité à 7h45 sur Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec la réouverture d'une prison de la santé flambant neuve. A tout de suite, on vous dit tout dans le journal d'Hélène Zellani.
Il est 7h08, votre matinale info, Nico Saliagas.
La suite du journal avec Hélène Zellani. Les travaux ont duré plus de 4 ans et la prison de la santé rouvre ce matin à Paris.
Oui, dans un premier temps, 80 nouveaux détenus rejoindront l'établissement qui a été complètement rénové, mais aussi ultra sécurisé avec notamment des brouilleurs de portables. Reportage auprès des habitants du quartier déjà inquiets, Pierre Herbulot.
Bel appartement meublé dans le 14e, 50 mètres carrés, très lumineux avec vue sur la prison de la santé. Germaine habite là depuis 60 ans. Elle regrette déjà le temps où les cellules étaient vides.
Le soir, c'est infernal. Ils font un boucan de feu de Dieu. Et ce qui est épouvantable, c'est, vous voyez, il n'y a pas de rideau et on les voit à poil. Et puis, il y a l'éclairage nocturne. La nuit, il ne fait plus nuit chez nous. C'est une énorme nuisance.
Parmi les nouveautés de la rénovation, des brouilleurs d'ondes ultra puissants pour éviter que les détenus utilisent des portables. Trop puissants pour Geneviève.
Ça a perturbé toute la rue.
Vous avez eu des petits problèmes de téléphone, vous aussi?
Moi, c'est surtout d'Internet, choses comme ça.
Ces désagréments mis de côté, Belinda ne voit aucun inconvénient au retour des détenus. Elle s'est toujours sentie en sécurité alors qu'elle habite juste en face de la prison.
J'étais habituée avant de voir les prisonniers, de les côtoyer et ça ne m'a jamais dérangée plus que ça. Ils sont plutôt marrants même des fois à voir. Des fois, ils me font des petits coucous, ils balancent des numéros, mais c'est vraiment pas méchant, ça fait pas peur.
En fait, c'est comme retrouver des voisins un peu trop bruyants, résumé un habitant du quartier.
Pierre Herbulot.
Vous avez déjà repris le travail, peut-être. Vous êtes déjà dans les starting blocks, mais pour les enfants, la rentrée, c'est ce matin.
Oui, les soirées qui se prolongent, les grasses maths, c'est fini. On sait que ces vacances de Noël sont les plus fatigantes de l'année et que bien souvent, ils n'ont pas très envie de reprendre la classe.
On était bien en vacances, on stressait pas, on travaillait pas, on faisait tout ce qu'on voulait quoi.
On fait des trucs rigolos qu'on peut pas forcément faire les soirs d'école. Et après, bah, je suis fatiguée de retourner à l'école.
J'y étais avec mes copines au marché de Noël et avec ma famille. Et oui, bon, c'est bien rentrer à l'école des fois. Tu sais, mes copines me manquent.
C'est sympa la rentrée parce que déjà j'ai retrouvé mes amis. Puis si j'ai envie d'avoir un travail aussi, il vaut mieux que j'aille au collège.
Je vais me réveiller à la fin de la journée parce que j'aime pas l'école.
C'est mignon.
Des enfants interrogés par Juliette Jay. Et les enseignants, comment font-ils pour les remettre sur les rails dès ce matin?
On va poser la question à Marie qui est professeur des écoles dans le primaire à Boulogne-Billancourt. Bonjour Marie.
Bonjour.
Vous avez un petit truc ce matin pour les remettre dans le bain tout de suite, les petits?
Oui, bon, effectivement, on l'a bien entendu. Ils n'ont pas forcément envie de rentrer ce matin, si ce n'est pour retrouver les copains. Donc, ouais. Ce matin, on va dire que l'arrivée va se faire en douceur. On va les retrouver à 8h30. On montera tranquillement en classe. Avant de se mettre au bureau, moi, j'ai l'habitude de leur laisser un petit bonus temps de 10 minutes pour leur laisser le temps de se raconter un petit peu ces vacances particulières en plus. Ils ont toujours plein de choses à se raconter, cadeaux, les fêtes. Et puis ensuite, on se mettra tranquillement au travail. On reprendra les notions vues avant les vacances en douceur, avant d'embrayer sur les toutes nouvelles choses.
C'est bien. La rentrée de janvier, elle est plus compliquée que la rentrée de septembre?
Elle est plus compliquée dans le sens où on retrouve des enfants qui sont plus fatigués car ils ont perdu le rythme qu'on a l'habitude de leur donner pendant les périodes scolaires. Mmh. Et c'est vrai que les vacances de Noël, en général, c'est des vacances où le rythme et l'école semblent bien loin, puisque c'est les vacances de fête. Donc, c'est plus difficile dans ce sens-là.
Et se couche tard. Ouais, merci beaucoup, Marie. Vous êtes professeure des écoles dans le primaire à Boulogne-Billancourt. Bonne rentrée à vous et bon courage.
Merci beaucoup.
C'était le journal d'Hélène Zélani. Et si vous voulez réagir à l'actualité, c'est sur le répondeur au 3921 sur les réseaux sociaux.
Avec hashtag Europe 1.
Europe 1. Merci Céline Dacosta. Merci Hélène.
Et il est 7h11, on retrouve notre reporter Carole Ferry qui, comme chaque semaine, est sur le terrain, Nikos.
Elle sillonne la France et elle s'arrête près de chez vous. Bonjour Carole, vous êtes où ce matin?
Bonjour Nikos. Eh bien écoutez, je suis dans un F2, dans un HLM des quartiers de Lille Sud. Au mur, vous avez l'affiche du film Les Invisibles qui sort en salle mercredi. Car je suis chez Adolpha, une des héroïnes de cette comédie sociale sur les femmes SDF. Aujourd'hui, Adolpha a son petit chez elle. Mais la rue, elle a bien connu, la prison aussi, 11 mois pour avoir tué son mari qui l'a battue. À 70 ans, la voilà dans la lumière, mais après une vie bien sombre.
Ma vie, j'ai marché, j'avais 4 ans et demi. J'étais une mal branlée, comme on dit.
Mais pourquoi?
Parce que ma mère a bu du Ricard au goulot. Alors donc, quand t'es élevée par des gens qui picolent, eh ben, t'es pas grand-chose. Hein. J'ai connu la rue. Quand t'as froid, t'as froid. Mais j'avais une copine qui s'appelait Odette. Une fois, elle m'a donné une couverture. Rien qu'une couverture, ça fait du bien. J'ai connu 50 ans de galère, 50 ans de misère. Et maintenant, je connais la vie.
Ouais, un témoignage fort, Carole. Aujourd'hui, Adolpha dit connaître la vie. Mais comment s'est faite la bascule? Comment est-elle remontée dans le train de la vie, justement, et dans le quotidien?
Bah écoutez, tout simplement, une force de vie incroyable, hein, il faut l'avoir, Adolpha. L'humour qui ne l'a jamais quitté également. Et puis les rencontres. La juge qui lui conseille d'écrire son livre « Une vie bien rangée » d'Adolpha. Corinne Mazero, la comédienne du Capitaine Marlowe, vous savez, qui lit le livre et lui propose d'en faire une pièce de théâtre. C'est elle qui va la présenter ensuite au réalisateur des Invisibles, Louis-Julien Petit. Mmh. Mais alors au départ, Nico, c'est bien, ce sont juste quelques mots qui change tout.
Ah, j'ai rencontré l'aumônier de prison. Il m'a dit, lève la tête et ne la rabaisse jamais plus. Ce qui m'a fait comprendre le père, que tout ce que j'ai eu, les attouchements, les coups, tout ça, que c'était pas de ma faute. J'ai toujours cru que c'était de ma faute, tout ça. Que ça venait de moi. J'étais libérée quand j'ai su que c'était pas de ma faute. Et j'ai levé ma tête et puis j'ai pu rabaisser.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous de pouvoir redresser la tête?
Redresser, ça m'a permis d'avoir du boulot, ça m'a permis d'avoir un logement, en leur demandant de me donner ma chance quand même. C'est ça qu'il faut leur dire, on est humain, il faut nous donner notre chance. Ça me permet maintenant de me rhabiller, parce qu'avant je mettais toujours les habits des autres. Maintenant c'est mes habits que je mets.
Beaucoup de rouge, je crois.
Ah, j'adore le rouge. Rouge et noir.
Alors pourquoi?
Comme ma chanson en rouge et noir, je bâtirai mon cœur, j'irai plus loin que les montagnes de douleur. Il n'y a plus de montagnes qui sont infranchissables.
Voilà, et aujourd'hui Adolpha essaye à son tour d'aider les femmes battues, les adolescents en difficulté, eh bien, à surmonter leur montagne de douleur.
Elle est touchante, elle est émouvante, elle est à côté de vous Adolpha ?
Elle est tout à fait à côté de moi Adolpha.
Je vous embrasse Adolpha. Et vous avez eu raison, levez la tête.
Moi aussi, je vous embrasse.
Vous êtes magnifique. Merci à Carole Ferry à la rencontre d'Adolpha dans les quartiers sud de Lille. Adolpha qu'on retrouvera donc à l'affiche du film Les Invisibles en salle dès mercredi aux côtés de Corinne Maziero, qui sera notre invitée cette semaine. Vous êtes tous ce matin, c'est notre reportage quotidien tous les jours à 7h10 sur Europe 1.
Europe 1. Et les 7h15, restez avec nous sur Europe 1. À suivre Nico Saliagas.
L'édito éco avec Nicolas Barré.
Mais oui.
On parle de quoi Nicolas. Ce matin, Nicolas ? Bonjour.
Ah ben je vais vous parler d'une baisse d'impôts qui risque de vous passer sous le nez, figurez-vous.
Ah bon ? C'est possible ça ? 7h20, Europe 1 va plus loin. S'ouvre ce matin le procès du cardinal Barbarin. On va poser la question, est-ce que l'Église a pris des mesures depuis l'éclatement de cette affaire ? On vous dit tout dans quelques instants sur Europe 1. Bonne matinée à tous, bonne reprise et bon réveil.
Il est 7h17, c'est des principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Le cardinal Barbarin et 5 anciens membres du diocèse de Lyon devant le tribunal correctionnel ce matin. Ils sont accusés de ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles du père Prénat sur les jeunes scouts. On en parle dans quelques instants, dans Europe 1 va plus loin. Un ancien boxeur professionnel toujours recherché pour avoir frappé 2 gendarmes lors de la manifestation parisienne des Gilets jaunes samedi. Et une enquête de l'IGPN sur un commandant de police de Toulon pour des violences sur des manifestants. Toujours pas d'issue en vue pour le shutdown aux États-Unis, la paralysie partielle des administrations. 800 000 fonctionnaires concernés et Donald Trump qui veut toujours son mur à la frontière mexicaine.
Europe 1. Il est 7h18, c'est l'heure de l'édito éco, Nikos.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos, bonjour.
Bonjour Nikos.
Cette annonce très inattendue hier, faite par Bruno Le Maire sur Europe 1. Le gouvernement pourrait bien maintenir la taxe d'habitation pour les 20% de ménages les plus aisés. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Et c'est une drôle de cuisine fiscale qu'on est en train de nous préparer. Alors qu'est-ce qu'on entend depuis le début de la crise des Gilets jaunes ? Qu'il faut rétablir l'ISF. D'ailleurs, les sondages montrent que les Français sont très majoritairement pour. Ça n'a rien de surprenant puisque l'immense majorité d'entre eux ne le payent pas. Seulement, revenir sur la réforme de l'ISF, ce serait détricoter ce qui a été fait depuis le début du quinquennat. Donc, pas question, dit le gouvernement, d'où l'idée de trouver un autre geste fiscal. Et c'est donc sur la tête des 20% de ménages les plus aisés, une population beaucoup plus large que ceux qui payent l'ISF, ouais, que cela risque de retomber.
Ça fait beaucoup de monde, je crois.
Ça fait beaucoup de monde, oui. Ça fait 4 millions de foyers, alors qu'il y avait 350 000 assujettis à l'ISF, autrement dit. Et c'est là que la cuisine est un peu dure à avaler pour les ménages concernés. Et bien, pour sauver la réforme de l'ISF, on renoncerait à une baisse d'impôts qui devait concerner plusieurs millions de personnes.
Oui, mais la suppression totale pour tout le monde de la taxe d'habitation, c'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron ?
Alors, non, c'est vrai, c'était pas dans le programme. Le programme de Macron prévoyait que ce soit supprimé pour 80% des ménages. Mais au printemps dernier, il a lui-même décidé de l'étendre à tout le monde, tout en réformant la manière dont seraient financées les collectivités locales. C'était ça la cohérence. Autrement dit, aujourd'hui, la majorité présidentielle est en train de revenir sur une décision que le président jugeait pertinente au printemps. Renoncer à une baisse d'impôts sous la pression des Gilets jaunes, ce serait d'abord un sacré recul et puis une décision pour le moins contestable.
Pourquoi vous dites ça ?
Ben parce que d'abord, la suppression de la taxe d'habitation devait être financée par des économies budgétaires. C'était donc vertueux. Renoncer à la supprimer, c'est donc renoncer à des économies. Et puis d'autre part, la taxe d'habitation, c'est un impôt mité avec des bases de calcul qui souvent ne correspondent plus du tout à la réalité. C'était l'autre raison excellente pour laquelle le gouvernement voulait la supprimer. Et donc si on résume, le gouvernement va renoncer à faire des économies et maintenir un impôt injuste et mal fichu. Les classes moyennes supérieures peuvent remercier les Gilets jaunes.
L'expertise de Nicolas Barré pour l'édito éco, c'est quotidiennement et désormais à 7h15.
Europe 1, Nico Saliagas. Et il est 7h20, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin ce matin, s'intéresse aux moyens de lutte mis en place par l'Église contre la pédophilie.
Et si on vous en parle ce matin, c'est parce que le procès du cardinal Barbarin s'ouvre aujourd'hui à Lyon et on reproche au prélat d'avoir gardé le silence sur les agissements pédophiles du père Prénat qui était dans son diocèse. Cette affaire a-t-elle provoqué une prise de conscience de l'Église ? Pour en parler avec nous, Virginie Riva, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui au service politique d'Europe 1. Vous avez été longtemps correspondante à Rome et spécialiste du Vatican. Vous continuez à suivre le dossier pédophilie, notamment au Vatican. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ?
Parce que le secret fait partie de la culture de l'Église catholique. Si vous allez vous confesser, le prêtre n'est pas tenu par un simple secret professionnel comme les autres. C'est un sacrement. Il ne peut pas le briser du point de vue du droit canonique. Mmh. C'est ce que raconte cet ancien prêtre pédophile qui a agi dans les années 70, aujourd'hui renvoyé de l'Église. Témoignage exceptionnel recueilli par l'Ordre d'Autriche. Chaque fois qu'il commettait un crime, il allait se confesser.
Après, ben, je me confessais. Une fois, j'ai demandé pardon à une victime parce que mon confesseur la connaissait, etc. Voilà. Le seul prêtre qui ait fait son travail, entre guillemets, j'étais à la fin de ma formation, j'étais ordonné diacre. Une maman s'est plainte d'un baiser que j'avais donné à un garçon. Et on a parlé au curé. Et le curé en a parlé à l'évêque. Et l'évêque m'a nommé en aumônerie de collège et de lycée. Vous imaginez, c'est ça qui est absolument aberrant.
Et puis ce témoignage aussi, il est aberrant. Parce que c'était un prêtre soupçonné de pédophilie qui a été nommé auprès des jeunes. C'est totalement édifiant.
Effectivement.
C'est hallucinant, cette histoire.
Oui, mais ça permet de comprendre comment le silence est devenu un système d'autodéfense dans l'Église. On ne pensait jamais aux victimes, mais toujours à l'institution. Dans l'affaire Barbarin, les agissements du père Prénat ont été signalés dès 1991 à son prédécesseur, Monseigneur de Courtrai. Une femme, ancienne scout auprès du père Prénat, a été une des premières à alerter Monseigneur Barbarin en 2005. C'est Isabelle de Golemin, rédactrice en chef au journal La Croix, auteure d'Histoire d'un silence aux éditions du Seuil.
Moi, je lui en parle. Et là, le cardinal Barbarin dit que le nom de Prénat est connu en dehors du diocèse. Donc, aïe, 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 il faut faire attention, ça va sortir. Donc là, réflexe d'autodéfense, surtout pas de scandale à l'extérieur. Par exemple, il y avait une vieille réglementation romaine qui restait jusqu'en 2002 et qui disait qu'on excommuniait automatiquement toute personne qui dénonçait à l'extérieur les mauvais agissements d'un prêtre.
On en est là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Virginie Riva, l'Église a évolué ? Peut-elle évoluer ? Est-ce que les choses peuvent changer ?
En partie, oui. Mais il a quand même fallu attendre 2016 et l'affaire Barbarin pour que le travail soit fait sérieusement. Des cellules d'écoute ont été mises en place. 211 victimes ont pu parler. Les évêques apprennent à signaler les cas suspects. Ils font remonter 75 cas au procureur depuis 2 ans. 49 prêtres ont été suspendus. Mais le chantier est encore immense, comme le reconnaît la Conférence des évêques de France. Il y a bien, dans les séminaires, une sensibilisation systématique à la pédophilie, c'était une demande expresse de Rome. Mmh. On n'y parle toujours pas de sexualité ou de vie affective. Or, c'est toute la question. Est-ce qu'on arrive au séminaire avec des pulsions pédophiles ou est-ce la misère sexuelle, le célibat qui provoque ces pulsions ? Mmh. Pour l'Église aujourd'hui, il s'agit avant tout de fragilité humaine et pas d'une faute de l'institution.
Oui, mais pourtant, le pape François ne cesse d'avoir des mots très durs contre les prêtres pédophiles. Il a brisé aussi un silence, parfois maladroitement, mais il l'a fait. Ce sont des paroles ou des actes?
Effectivement, il y a les mots et puis les faits de l'autre. Alors le pape en 2016 justement proposait un texte de loi révolutionnaire qui rendait pour la première fois les évêques responsables d'un délit de négligence s'ils restaient silencieux. À ce jour, aucun responsable n'a été poursuivi par le Vatican. François avait pourtant créé beaucoup d'attentes. Dès le début de son pontificat, il avait formé une commission spéciale pédophilie. Depuis, beaucoup ont démissionné, comme Catherine Bonnet. Elle était la seule française à en faire partie. Elle demandait justement que les évêques puissent être jugés au Vatican par un tribunal spécial. Elle s'exprime rarement, mais elle m'a confié ce week-end que pour elle, s'il n'y a pas de changement drastique, le pape François ne réglera jamais le problème. Et elle attend des mesures fortes, notamment du sommet mondial qu'il convoque à Rome sur le sujet le mois prochain. Finalement, les vraies avancées se sont faites du côté de la justice civile en France plus sévère. En novembre dernier, un prêtre d'Orléans a été condamné à 3 ans de prison ferme. Son ancien évêque à 8 mois avec sursis pour ne rien avoir dénoncé. C'était la deuxième fois seulement qu'un évêque était condamné en France. Et puis aujourd'hui, de nombreux prêtres sont en détention provisoire en attente de leur procès. On le voit donc, les choses évoluent, mais certainement pas assez vite pour les victimes qui vont suivre donc de très près ce procès qui s'ouvre.
Merci Virginie Riva pour ce dossier monté en collaboration avec l'Ordre d'Autriche, avec Salomé Legrand et Chloé Triomphe. Et ce matin, débute donc à Lyon le procès du cardinal Barbarin. Il va durer 3 jours et avec lui comparaissent 5 anciens membres du diocèse, dont l'actuel archevêque d'Auch et l'évêque de Nevers. Europe 1 va plus loin, c'est tous les jours et tous les matins à 7h20.
Europe 1. Mais il est 7h25.
Parle de quoi avec Anissé Mbida, Céline Dacosta?
On va lui demander, là.
L'innovation, mais pourquoi?
De l'innovation, bah, grosso modo, on va pouvoir envoyer des messages rien qu'avec la pensée. C'est le début de la télépathie, vous allez voir.
Vraiment?
Vous allez voir.
Je crois pas une seconde.
Non, je vous envoie des messages sur Europe 1.
Il Il est 7h28, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anissa Mbida, Nicolas Saliegas.
Après une attaque cérébrale, beaucoup de personnes se retrouvent dans la capacité de parler. Et Anissa, des scientifiques ont réussi à décoder notre pensée, notre petite voix intérieure, pour les transformer en paroles.
Oui,
en fait.
Oui, et c'est vraiment impressionnant. On vous place des électrodes sur le crâne, on vous demande de parler dans votre tête, par exemple de compter jusqu'à 10 en anglais. Évidemment, personne autour n'entend rien. Pourtant, quand on décode votre activité cérébrale, bah écoutez bien, on entend ça. Alors, c'est pas très clair, hein, mais on entend bien 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont des chercheurs de l'Université de Columbia qui ont réussi cette prouesse, traduire les signaux de notre cerveau en expression
vous
vocale.
Vous les malentendus aussi.
Exactement.
Le nombre de fois où ce que l'on pense pourrait être écouté par d'autres.
Ah oui.
Mais concrètement, ça va permettre quoi? De faire de la télépathie, de communiquer avec des personnes dans le coma par exemple?
Oui, alors peut-être pas quelqu'un qui est dans le coma puisqu'il faut penser consciemment les mots pour qu'ils puissent être décodés.
D'accord.
Mais pour la télépathie, il faut savoir que Facebook travaille sur un système similaire qui permettrait d'envoyer des messages par la pensée. Vous savez que WhatsApp appartient à Facebook, donc peut-être que bientôt, il suffira de penser très très fort à quelqu'un pour lui envoyer un WhatsApp.
Les malentendus en réunion.
C'est sûr.
Mais c'est vrai que le premier usage sera médical pour communiquer avec les personnes paralysées, par exemple après un AVC par exemple.
Oui, et puis on le rappelle, environ un tiers des personnes qui font un AVC ont des difficultés à parler ou à comprendre. Ça s'appelle l'aphasie et il y a 15 000 nouveaux cas chaque année en France. Merci Anissa Mbida, en route vers le futur, c'est tous les jours pour l'innovation à 7h25.
C'était l'innovation du jour avec EDF, se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur des territoires pour accélérer la transition énergétique. Plus d'infos sur edf.fr. Dans deux minutes, même dans un instant, le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol.
Et par télépathie, j'entends ce que vous dites.
Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle.
Ah oui,
c'est Baudelaire qui parle à ma place.
C'est votre pensée qui s'exprime.
Ben oui, le ciel bas et lourd, c'est celui que nous avons en ce moment sur la France. Toute la France est sous des nuages, et sous des nuages extrêmement épais, et qui resteront là toute la journée, avec quelques éclaircies sur le Larzac, sur le littoral méditerranéen, et sur les massifs montagneux, mais c'est tout. Température entre 4 et 12 degrés, il en fera 10 à Paris, et il en fera même 13 degrés à Marseille, c'est là qu'il fera le plus doux.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 janvier, belle matinée à tous, il est 7h30.
7h, 9h. Nicolas Saliegas sur Europe 1.
Je reçois à 7h45 Gérard Billard, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, 4 ans après l'attentat de Charlie. 7h30, le journal avec Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le choc pour une députée modem de Vendée. Dimanche matin, elle a trouvé en ouvrant son portail un mur de parpaing qui avait été construit durant la nuit. Patricia Galerno accuse les Gilets jaunes, elle a porté plainte.
En sortant de mon domicile à 9h, j'ai un portail coulissant que j'ouvre et un mur se tenait derrière le portail. Un mur de parpaing, je ne sais pas, d'1,50 m de haut et 5 m de large, empêchait qu'on puisse sortir n'importe quel véhicule et même sans escalader de ma maison. C'est mon domicile où je vis avec mon mari, mon chien, mes enfants parfois. C'est inacceptable qu'on s'attaque à ma vie privée. C'est très désagréable et puis je suis très très déçue. C'est décourageant par rapport aux Gilets jaunes. Ils sont infestés, investis, complètement trahis par des gens qui ne sont pas des vrais gilets jaunes sincères et qui sont en train de pourrir leur mouvement.
Patricia Galerno avec Jean-Jacques Herry. L'élu a déposé hier soir une deuxième plainte pour des propos sur Facebook affirmant que sa maison allait être plastiquée. L'acte 8 des gilets jaunes, une nouvelle fois marqué par des violences. Un ancien boxeur professionnel est recherché pour avoir frappé deux gendarmes à Paris samedi en marge d'un rassemblement des gilets jaunes. Et une enquête de l'IGPN a été ouverte après les coups portés sur des manifestants par un commandant de police à Toulon.
Et puis Céline Kallmann, la France insoumise, va déposer son projet de loi sur le référendum d'initiative citoyenne.
Oui, le texte n'a aucune chance de passer, mais les insoumis estiment apporter ainsi à l'Assemblée une revendication des Gilets jaunes née sur les ronds-points. Écoutez le député Bastien Lachaud avec Virginie Riva.
Nous portons à l'Assemblée la revendication des Gilets jaunes. Donc nous proposons un référendum d'initiative citoyenne en tout domaine pour que, sur proposition de citoyens, un référendum soit organisé. Le peuple est souverain et on ne peut pas lui dire « Vous avez le droit de vous prononcer sur tel, tel et tel sujet, mais pas sur les autres parce que ça c'est trop sérieux, vous n'êtes pas assez intelligent. » Non, le peuple a le droit de trancher des questions sur l'ensemble des domaines.
Sur la peine de mort par exemple ?
Sur la peine de mort, oui, sur l'ensemble des sujets, à partir du moment où le nombre de citoyens nécessaires ont demandé que l'initiative soit portée au référendum et qu'il y ait une campagne, qu'il y ait un débat contradictoire et que le peuple, au final, tranche.
Bastien Lachaud avec Virginie Riva. Bruno Le Maire pourrait maintenir la taxe d'habitation pour les 20% des ménages les plus aisés. C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre sur Europe 1 lors du grand rendez-vous CNews Les Échos.
Nous avons engagé cette suppression de la taxe d'habitation. Il est essentiel qu'elle soit aboutie, que nous allions au bout de cette suppression de la taxe d'habitation. Mais on peut très bien demander aux Français, est-ce que vous estimez que pour les 20% les plus riches, il est légitime ou non de supprimer la taxe d'habitation?
Bruno Le Maire hier sur Europe 1.
Europe 1, il est 7h33.
Carlos Ghosn est censé comparaître en personne la nuit prochaine pour clarifier les motifs de sa détention au Japon.
Oui, la défense du PDG de Renault a demandé une comparution publique. Carlos Ghosn est derrière les barreaux depuis le 19 novembre. 50 jours qu'on ne l'a pas vu. Une comparution forcément déterminante. Écoutez notre correspondant Régis Arnaud.
L'audience de Carlos Ghosn est importante parce que c'est la première fois qu'il va apparaître publiquement après son arrestation le 19 novembre, c'est-à-dire il y a une cinquantaine de jours. C'est la première fois qu'on va pouvoir avoir une idée de son état physique. On ne sait pas comment il sera habillé, c'est à son choix, c'est-à-dire qu'il peut être habillé soit en civil, soit en tenue de prisonnier, mais on sait encore très peu de choses sur la manière dont il apparaîtra. Ça va être aussi la première fois qu'il va exprimer une partie de sa défense, puisqu'il n'aura que quelques minutes et que ça portera essentiellement sur les raisons de son maintien en détention. Et non pas sur les charges, mais c'est la première fois que la défense finalement s'incarnera et pourra donner de la voix. L'audience est publique, mais elle ne sera pas filmée et il y aura assez peu de journalistes dans la salle.
Régis Arnaud avec Jeanne Bergaoui pour Europe 1. Dans l'actualité de ce lundi, la mythique prison de la Santé va rouvrir après plus de 4 ans de travaux. L'établissement est désormais ultra sécurisé avec des brouilleurs de téléphone.
C'est la période des entretiens individuels dans les entreprises.
Oui, bon courage si vous reprenez le travail ce matin. Vous allez peut-être faire le point sur l'année écoulée, sur vos objectifs pour celles qui arrivent. Comment se comporter si vous êtes stressé, notamment pour cet entretien? Écoutez les conseils de la coach Audrey Akoun, psychothérapeute consultante en entreprise.
Il y a des études en neurosciences qui montrent que pour le cerveau, l'entretien annuel d'évaluation, ça fait exactement le même effet que si on croisait un tigre dans la rue. C'est-à-dire que ça engendre des réactions de peur, peur de la critique éventuelle. Moi, ce que je conseille toujours, c'est déjà de comprendre que cette peur, elle est naturelle. On peut aussi dire ce qui a bien fonctionné. Pas hésiter à poser des questions à son manager, passer d'un état où on subit à un état où on a la main sur son activité, on a des besoins, des objectifs aussi qu'on aimerait atteindre, de développement professionnel et personnel, et de ne pas hésiter à les dire. Vous savez, c'est comme la Saint-Valentin, il ne faut pas attendre un jour dans l'année pour faire le point sur sa relation de couple.
C'est ça. Audrey Akoun, jointe par Hélène Terzian pour Europe 1.
On passe au sport avec le pessimisme du président du club de rugby de Montpellier, Mohamed Altrad.
Oui, le très influent homme d'affaires qui s'exprime rarement dans les médias a accordé un entretien à Europe 1 à 9 mois du mondial de rugby au Japon. Il a affirmé que l'équipe de France en l'état ne pouvait pas gagner.
J'ai l'impression que la situation est désespérée dans le sens où on ne voit pas qu'on va y arriver parce qu'on n'a plus confiance en nos moyens. Ce que je souhaite qu'elle aille très loin, mais hélas, je ne la vois pas gagnante de la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de candidats. La France, si elle passe le premier tour, si elle termine un quart de finale, demi-finale, ça serait magnifique.
Mohamed Altrad avec Jean-François Pérez pour Europe 1. La honte, c'est la une du journal La Provence ce matin qui titre sur l'humiliation infligée à l'Olympique de Marseille par les amateurs d'Andrézieux près de Saint-Étienne, club de 4e division. Ils ont sorti l'OM en 32e de finale de la Coupe de France 2-0. Jacques-Henri Hérault, le président de Marseille, est très remonté.
Tout simplement inadmissible. Alors on dira que c'est le charme de la Coupe de France, mais pour moi, ça n'a de charme que le nom, c'était un cauchemar. Je crois qu'on doit faire preuve d'autres valeurs, d'un peu de fierté aussi, d'un peu d'orgueil surtout, ce que je n'ai pas vu.
Jacques-Henri Hérault avec Anthony Perel. Notez que ce soir, suite et fin des 32e de finale de la Coupe de France, Lille reçoit Sochaux.
Merci Céline Kallmann pour le journal de 7h30. On lit vos réactions sur les réseaux sociaux d'Europe 1 avec le hashtag Europe 1 justement.
Exactement,
Céline.
Exactement, continuez à nous envoyer vos messages.
Europe 1.
Il est 7h37.
Jean-Michel Apathy.
Bonjour Nikos.
Bonne année.
Bonne année.
Elle commence sous l'auspice des Gilets jaunes cette année.
Les Gilets jaunes, on va se demander où vont les Gilets jaunes, dans le mur ou pas dans le mur.
Axel de Tarlet, bonne année aussi.
Bonne année, bonjour Nikos.
On va où ce matin?
Eh ben moi, c'est assez incroyable, mais figurez-vous que l'Europe, Bruxelles, pourrait s'opposer à la création d'un Airbus du rail. Alors ça a mis en colère hier Bruno Le Maire, on va l'écouter.
Apathy de Tarlet dans un instant sur Europe 1. Bonne journée à tous, on vous accompagne jusqu'à 9h.
Et il est 7h39, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Bonjour Michel, les Gilets jaunes, ils étaient 50 000 samedi dans des manifestations un peu partout en France. Il y a eu des débordements, il y a eu des coups. À Paris, les portes du ministère de Benjamin Griveaux ont été forcées. On disait, ou certains disaient, que le mouvement s'était essoufflé, mais on a bien vu qu'ils étaient là. Hein.
Alors, le mouvement a de la vigueur, mais il faut quand même parler de chiffres un petit peu. Il ne réalise pas son potentiel. Il faut se souvenir que le 17 novembre, jour de la première manifestation des Gilets jaunes, il y avait 300 000 personnes dans les rues. Oui. Ce qui n'est d'ailleurs pas extraordinaire. Là, 50 000 samedi, donc c'est quand même un mouvement qui s'est rétréci plutôt qu'il ne s'est élargi. Même si c'est de loin le plus important, c'est un mouvement qui marque profondément l'opinion publique, qui laisse des traces. La colère, la méfiance vis-à-vis des élites vont sans doute structurer une demande politique pendant des mois, sinon des années.
C'est enfin, un mouvement qui est relayé à travers les médias, en tout cas nous aussi.
Ah oui, largement.
On met tout en avant, 24 heures sur 24, la télé, la radio, on est là, on les suit.
Parce que c'est un mouvement important, parce que c'est un mouvement qui raconte des choses importantes et significatives de la société française. Ensuite, il y a une question qui est posée aux Gilets jaunes eux-mêmes, comment ils sortent de cette situation, parce que là, pour l'instant, on ne voit pas très bien. Alors, ce week-end, je crois que c'est le fait le plus important, on a vu deux stratégies à l'œuvre chez les Gilets jaunes. On a vu des Gilets jaunes à Marseille, dans les locaux de la Provence, le journal de Bernard Tapie, des Gilets jaunes qui venaient de toute la France et qui veulent se constituer, c'est eux qui l'ont dit, en coordination nationale. Pourquoi c'est important? Parce que si des Gilets jaunes se structurent, ils feront une hiérarchie dans leurs revendications et donc ils seront en état de dialoguer avec les pouvoirs publics. Et on peut imaginer une sortie de crise négociée, ce qui est quand même le minimum, voire l'indispensable dans une démocratie.
Ou de se présenter aussi aux élections, par exemple, s'ils sont organisés. Oui.
Mais alors, en fait, c'est très compliqué, les Gilets jaunes, parce que ceux qui étaient à Marseille ne sont pas ceux qui veulent se présenter aux élections. En fait, ils se débrouillent, ça, je ne sais pas jusqu'où ils iront, mais ils veulent s'organiser, ça c'est important. D'accord. Et puis, il y en a d'autres. C'était la deuxième stratégie à l'œuvre ce week-end, une autre stratégie menée par des personnalités qu'on connaît maintenant, Éric Drouet, Maxime Nicole, Priscilla Ludowski, l'intellectuel caché ou secret des Gilets jaunes, Étienne Chouard, ceux-là sont des jusqu'au boutistes. Ils ne hiérarchisent pas les revendications. Il faut que le gouvernement prenne tout, sinon aucun accord possible. Et le mieux, disent-ils, c'est que Emmanuel Macron démissionne. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Alors, c'est jusqu'au boutiste. Et évidemment, il donne au mouvement des Gilets jaunes une teinte très radicale. Par exemple, Maxime Nicole, on n'en parle pas assez. Mardi dernier, il fait une vidéo sur Facebook. Il dit « Des Gilets jaunes sont prêts à mourir pour la cause ». Tu parles, Tintin. Personne n'est prêt à mourir pour ça. C'est quand même des idioties de premier ordre. Maxime Nicole lui-même, il n'est pas prêt à mourir pour la cause qu'il défend. Étienne Chouard, sur une radio il y a 10 jours, qualifie Emmanuel Macron de criminel. Enfin, ça ne sert à rien des mots comme ça. C'est totalement excessif. Mais en revanche, ces mots-là libèrent l'agressivité sur le terrain. Ce sont ces leaders-là que j'ai cités qui sont responsables du saccage du ministère de Benjamin Griveaux. Au passage, le saccage d'un ministère qui est un acte, on ne peut plus anti-républicain, n'a été dénoncé ni par Marine Le Pen, ni par Jean-Luc Mélenchon. Il faut quand même noter les silences coupables et compromettants pour des leaders politiques de cette importance. Et puis, ce sont aussi ces paroles agressives des leaders que j'ai cité, qui libère l'instinct de mort, parce que quand on voit les images, on est saisi de ce fameux boxeur qui, ses poings, ce sont des armes. Lui, il sait utiliser ses poings, et quand il frappe comme il frappe sur des policiers, ce sont des images absolument effrayantes. La leçon de ce week-end, c'est cela. Il n'y a pas de pire ennemi pour les Gilets jaunes que certains Gilets jaunes.
Le point de vue de Jean-Michel Apathy, c'est tous les jours sur Europe 1, 7h40.
Et à 7h42, Nikos, nous retrouvons Axel de Tarlé pour le Zoom Echo.
Le futur TGV européen pourrait ne jamais voir le jour. La Commission européenne envisage d'interdire la fusion entre le français Alstom et l'allemand Siemens. Bruno Le Maire, hier sur notre antenne, semblait très en colère, Axel de
Tarlé. Oui, parce que c'est quand même assez incroyable. En Europe et en France tout particulièrement, nous sommes très fiers de notre TGV, dont nous sommes les champions mondiaux. Ben, sauf que les Chinois sont là et ils nous dépassent. On ne le sait pas, mais en Chine, il y a 20 000 km de réseau TGV. C'est 10 fois le réseau français. Vous savez qu'en Chine, vous faites Pékin-Shanghai à 350 km/h. Et les Chinois arrivent chez nous. Ils vendent du matériel aux États-Unis. Ils vendent des locomotives en Allemagne. Et donc, on voit bien que si on ne fait rien, dans une génération, nos enfants rouleront dans des TGV, dans des trains chinois. Donc, face à la menace, que fait-on? Eh bien, on se serre les coudes. Et donc, les deux frères ennemis d'hier, le français Alstom et l'allemand Siemens, qui se détestaient, eh bien ces deux-là ont décidé de se marier. On parle d'un Airbus du rail. Et figurez-vous, patatras, la Commission européenne pourrait s'opposer à ce mariage. Alors, au nom de la concurrence, je vous explique le raisonnement de la Commission européenne.
Qu'on comprenne.
Voilà, elle estime qu'ensemble, Alstom et Siemens seraient trop forts, trop puissants en Europe, et donc il n'y aurait pas assez de concurrence en Europe, et donc au final, ce serait mauvais pour le consommateur. Alors évidemment,
cette perspective, ce raisonnement a mis hors de lui hier. Bah oui, alors je... bah si, s'il y a moins de concurrence.
L'Europe est avec nous ou pas avec nous, la Commission européenne?
Justement, justement, vous faites le raisonnement qui. Ce raisonnement agace beaucoup de gens, notamment Bruno Le Maire. Il était hier sur Europe 1 dans le Grand Rendez-vous et il a exprimé sa colère. On l'écoute.
Si jamais la Commission européenne devait donner une décision défavorable à cette fusion, ça ne serait pas simplement une erreur économique. Ce serait une faute politique, parce que ça affaiblirait toute l'industrie européenne face à la Chine. Et ça enverrait le signal face à une Chine qui est conquérante, que l'Europe se divise et se désarme.
Non mais c'est audible. Il parle de faute économique ou de faute politique. Bah, il est pas un peu fort.
Oui, bah, faute économique, c'est vrai, parce qu'on est à un moment crucial en matière de transport public. Vous savez, on parle des réseaux intelligents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut marier le rail, le tramway, la voiture autonome, la voiture électrique. Donc, ça veut dire des signalisations qui communiquent entre elles. Donc, pour faire ça, bah, il faut ça demande beaucoup de moyens. Il faut unir nos forces, français et allemands. Et puis, faute politique. Écoutez, on est à 4 mois des élections européennes. Et vous le disiez, Nikos, on a fait l'Europe pour ça, pour s'unir. Et donc, si au lieu de s'unir, l'Europe empêche ce type de mariage et nous dit « Non, il vous faut, on va nous... » Parce qu'en clair, ça veut dire quoi, la défense du consommateur? Ça veut dire qu'on va nous forcer à rouler dans des trains chinois, parce que, estime l'Union européenne, les trains chinois seraient potentiellement moins chers que les trains franco-allemands Alstom-Siemens. Franchement, effectivement, c'est une double faute économique et politique.
Et donc, la décision est attendue pour quand?
Alors, le 18 février, on devrait en savoir un peu plus d'ici la fin du mois de janvier.
On saura si, oui ou non, on assistera à la naissance d'un Airbus, du rail.
Voilà.
Et il y a une Française qui nous écoute à Shanghai ce matin sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Fabiola et elle roule dans des trains chinois. Merci Axel de Tarlé.
Europe 1. Il est 7h45 à suivre, Nikos Aliagas.
C'était il y a 4 ans, jour pour jour, l'attentat contre la rédaction de Charlie avait fait 12 morts. 4 ans après, la société française a-t-elle changé? Sommes-nous encore Charlie? Je posais la question dans quelques instants à mon invité, Gérard Biard, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo. A tout de suite sur Europe 1, bon réveil.
Il est 7h47, les principaux titres à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Hommage ce matin aux victimes des attentats de janvier 2015 en présence de Christophe Castaner et de la maire Anne Hidalgo. Une cérémonie d'abord organisée pour les victimes de Charlie Hebdo, une autre pour le lieutenant de police Ahmed Merabet et enfin pour les victimes de l'hypercacher. Début du procès de Lyon du cardinal Barbarin, qui est jugé pour ne pas avoir dénoncé des agressions sexuelles sur mineurs. 5 anciens membres du diocèse sont aussi convoqués pour des faits qui se sont déroulés avant 1991. Dernier match des 32e de finale de la Coupe de France. Lille, actuel 2e de la Ligue 1, reçoit Sochaux, 16e de la Ligue 2. Et puis enfin, la tendance météo, soleil sur le quart sud-est, nuages partout ailleurs, température 3 à 14 degrés du nord au sud.
La météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 8h. Europe 1. Nikos Aliagas, 4 ans jour pour jour après l'attentat de Charlie Hebdo. Vous recevez ce matin Gérard Biard, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire.
Bonjour Gérard Biard.
Bonjour.
C'était le 7 janvier 2015. Les frères Kouachi tuaient 12 de vos amis en pleine conférence de rédaction. Personne n'a oublié. Vous n'étiez pas au journal ce matin-là. 4 ans ont passé. Est-ce que le retour à la vie normale a été possible?
Ah bah oui, d'abord sinon on ne serait pas là. Mais oui, enfin bien sûr. Il est même incontournable le retour à la vie normale. Il faut revenir à une vie normale. Ça a été assez long, plus difficile pour certains et pour certaines. Mais voilà. Bien sûr, oui, la vie normale doit reprendre son cours.
Malgré tout, ce week-end est sorti en kiosque un numéro spécial de Charlie. En couverture, on y voit un évêque et un imam qui souffle sur une flamme, sur la flamme d'une bougie dont la lumière éclaire le dessin qui avait fait la une du numéro d'après-attentat « Tout est pardonné » avec ce titre. C'est un numéro assez amer en fait. Vous déplorez une société de plus en plus obscurantiste.
Oui, en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que donc c'est un numéro qui est consacré non pas aux lumières, mais aux anti-lumières, au retour des anti-lumières, ce qu'on appelle voilà. Et on constate aujourd'hui que toutes les valeurs, tout ce qui a permis de construire les sociétés modernes. Et je ne parle pas uniquement des sociétés occidentales, je parle de toutes les sociétés modernes. Toutes ces valeurs-là sont sont aujourd'hui attaquées. C'est pas seulement
quelle valeur.
Voilà, c'est pas seulement la laïcité. C'est l'universalisme. C'est l'esprit scientifique. C'est tout ce qui permet l'émancipation individuelle et collective. Mmh. Et toutes ces valeurs, toutes ces idées sont aujourd'hui battues en brèche, attaquées. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'elles ne sont pas seulement attaquées par ces ennemis traditionnels qu'on classe plutôt à droite, mais également par une partie d'intellectuels, une partie de politiques également, de militants qui se classent eux-mêmes à gauche et qui objectivement sont à gauche. Donc, comme Régis Debray,
je vais vous citer d'ailleurs, Gérard Biard, dans votre édito, vous fustigez des intellectuels, des militants, des politiciens. Vous parlez d'Éric Zemmour, je viens de citer Régis Debray, Michel Houellebecq aussi. Et je vous cite, vous dites, nous devrions avoir la liberté et l'émancipation comme unique ligne d'horizon. Leur jérémiade poussiéreuse et toxique nous entraîne dans la dépression. Mais est-ce que l'obscurantisme dont vous parlez, c'est vraiment de la faute de ces intellos ? C'est pas plutôt un fait de l'époque ?
C'est un fait d'époque ne vient jamais de nulle part et il est toujours alimenté et il est alimenté par des actions politiques par des réflexions intellectuelles les intellectuels et les militants qui ils sont actifs dans la société ils contribuent à cet esprit qui aujourd'hui nous enferme dans une espèce de dépression continuelle où on a presque envie de se pendre en permanence quoi. C'est un petit peu ce que j'écris d'une manière peut-être un peu ironique.
Vous le ressentez où, c'est-à-dire en dehors du constat, en dehors de ce qu'on peut lire dans la presse, vous le ressentez dans la rue, vous discutez avec vos lecteurs, ce ne sont pas seulement les réactions des réseaux sociaux qui vous disent qu'on a envie de se pendre quotidiennement, il y a quelque chose de plus sournois au quotidien.
Je vais prendre un exemple très concret. La polémique qu'il y a eu il y a quelques jours à propos de ce qu'a déclaré Zineb El Razoui, qui était
la dessinatrice.
Non, elle n'était pas dessinatrice. Elle est journaliste.
Journaliste.
Elle n'est pas dessinatrice. Oui. Elle a dit sur une antenne de télévision que l'islam doit se soumettre à l'humour, à la critique, aux lois de la République. Mm-hmm. Pour avoir dit ça, elle est menacée de mort, elle est menacée de viol. Enfin voilà. C'est la traditionnelle salve automatique sur les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, le simple fait de dire que une religion, quelle qu'elle soit, une idée doit se soumettre aux lois de la République, ça devient blasphématoire. Or, le problème, c'est que effectivement, bon, Rhys dit dans son édito que tout devient blasphématoire.
Le directeur de la rédaction de Charlie,
voilà.
Il dit que ça s'est dégradé en quatre ans aussi.
Oui,
il reconnaît.
Bien sûr que ça s'est dégradé en 4 ans parce que l'offensive terroriste, elle ne s'arrête pas. Et elle a aucune, objectivement, de son point de vue, elle n'a aucune raison de s'arrêter puisque ça fonctionne. Voilà. Donc,
est-ce que les Français sont encore Charlie aujourd'hui, Gérard Biard?
Ça, je ne sais pas. J'ai jamais bien su ce que ça voulait dire.
Ça veut dire qu'on est solidaire. Ça veut dire qu'on reconnaît l'utilité de Charlie, qu'on a besoin aussi de l'iconoclaste de Charlie, à la fois poil à gratter et en même temps une liberté absolue de pouvoir rire de tout, de pouvoir tout pasticher. Est-ce qu'on est encore dans cet état d'esprit aujourd'hui en France, 4 ans après l'assassinat de 12 personnes qui n'avaient rien fait? Si ce n'est leur métier.
Je ne pense pas qu'on soit qu'on soit dans cet état d'esprit-là. Ce qui s'est passé avec la marche du 11 janvier 2015, c'était une réaction, c'était épidermique. Mais une fois que cette réaction épidermique s'est exprimée, les choses sont redevenues au fond ce qu'elles étaient avant, et en se dégradant effectivement. Et je ne pense pas aujourd'hui, il est de plus en plus compliqué de rire, y compris de soi-même, quand on fait une blague ou une couverture ou nous-mêmes où on rit de ce qui nous est arrivé.
De l'humour noir,
c'est de l'humour noir. Et si on ne rit pas de ce qui est triste, comment on peut se débarrasser de ce qui est triste? Comment on peut se débarrasser de la tristesse et du drame? C'est le meilleur moyen. Le rire, c'est la meilleure des thérapies. Ça fonctionne pas toujours, mais il faut surtout pas s'en priver.
Merci Gérard Biat. Rire avec vos armes, des mots, des dessins, des crayons de couleur et des rêves. Merci infiniment. Numéro spécial de Charlie Hebdo en kiosque depuis samedi. Le retour des anti-lumières en une, 4 ans après. On n'oublie pas.
Europe 1. Il est 7h56.
À suivre, direction Lyon, dès le début du journal de 8h, où s'ouvre ce matin le procès très attendu, très commenté déjà, du cardinal Barbarin. Et puis juste avant, la petite histoire du jour avec Jean-Philippe Ballas. Aux États-Unis, une jeune élue du Congrès fait danser toute l'Amérique. On vous explique pourquoi, juste après ça.
Il est 7h57, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos, avec Jean-Philippe Ballas.
Vous savez quoi, tous les jours, juste avant 8h, Jean-Philippe Ballas nous raconte une belle histoire. Et ce matin, vous nous emmenez aux États-Unis avec une femme politique qui fait beaucoup parler et qui fait aussi danser.
Oui, elle s'appelle Alexandria Ocasio-Cortez et à 29 ans, elle est tout simplement la plus jeune élue du Congrès à Washington. Une petite fille, une écervelée. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais ses détracteurs, quelques vieux élus républicains et des internautes, dont un anonyme forcément, qui publie il y a quelques jours une vidéo censée déstabiliser l'élu démocrate. Qu'est-ce qu'on y voit dans cette vidéo? Bien des images qui ont un peu moins de 10 ans. À l'époque, Alexandria est encore étudiante et elle danse sur le toit de la fac de Boston en rigolant avec ses camarades. Pour la petite histoire, la musique du clip, c'est un groupe français qu'on entend, c'est le groupe Phoenix. Franchement, le genre de clip, bien inoffensif. Mais pour les plus conservateurs, c'est la preuve que cette gamine n'est pas sérieuse et n'a rien à faire à Washington. Eh bien les amis, Alexandria Ocasio-Cortez va répondre, et de manière plutôt très futée, en publiant un autre clip où elle danse, là encore, mais cette fois dans les couloirs du Congrès. Carrément, elle enfonce le clou avec cette musique.
Frantic Ghost de Hollywood.
Voilà, chanson de combat, de riposte. Alexandria Ocasio-Cortez fait une petite chorégraphie et glisse un commentaire. J'apprends que les républicains sont scandalisés par les femmes qui dansent. Attendez qu'ils apprennent que des élus du Congrès dansent aussi. Petit sourire à la caméra et bim, 15 millions de vues sur Internet. En résumé, ceux qui voulaient couler la jeune femme en ont fait la coqueluche d'une partie de l'Amérique. Il faut dire aussi qu'Alexandria Ocasio-Cortez est une élue au caractère bien trempé, avec un parcours qui détonne. Elle a grandi dans le Bronx, à New York. Elle était encore serveuse il y a quelques mois, oui. Mais justement, elle connaît par cœur la réalité de la classe ouvrière et n'hésite pas à se présenter comme radicale. Bref, on va entendre parler d'Alexandria Ocasio-Cortez dans les prochains mois. Et un conseil, vous savez quoi? Si jamais vous avez envie de danser avec elle, un conseil, évitez de lui marcher sur les pieds.
C'est Edwin Starr, en fait, dans les
années
70.
C'est la version originale.
Voilà, c'est Contre la guerre au Vietnam, repris dans les années 80 par Frankie Goes to Hollywood. Et nous, notre original s'appelle Jean-Philippe Ballas. C'est la petite histoire qui fait danser tous les jours, avant 8h sur Europe 1. Merci Jean-Philippe.
À suivre le journal de David Doucan, mais tout de suite c'est la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Monsieur Cabrol, le ciel danse-t-il?
Oh,
pas vraiment.
C'est le slow alors, parce que ça bouge pas. Ça bouge pas. Un slow bien serré, avec une couche nuageuse assez intense sur la France. Quelques éclaircies sur les Cévennes, le Larzac, le littoral méditerranéen, les Alpes et les Pyrénées. Mais même aussi quelques petites bruines. Il y en a encore parfois, Chartres, Blois, Tours, Angers, Mâcon, et à venir sur les Ardennes, le Nord, la Normandie, le Nord de la Bretagne. Enfin bref, ces nuages sont tellement épais qu'ils donnent ici ou là quelques petites gouttes de pluie. Donc ne soyez pas étonnés. Une température aujourd'hui, 1 à Rodez, 4 à Toulouse, 5 à Lyon, 6 à Nancy et Strasbourg, 7 à Bordeaux, 8 à Reims, 9 à Lille, 10 à Paris, 12 à Paris. Oui, 12 à Montpellier, et même 16 2x8 à Nice.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous accompagner en ce lundi 7 janvier. Bonne rentrée et bon réveil, il est 8h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Et le journal présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Trois titres à la une ce matin.
Le silence de l'Église devant la justice sur le banc des accusés aujourd'hui, le cardinal Barbarin. Il est accusé de ne pas avoir suffisamment agi alors qu'il avait connaissance du passé pédophile d'un prêtre. La France est-elle condamnée à vivre la violence chaque samedi? Un boxeur professionnel est recherché pour avoir frappé des gendarmes. Un commandant de police est mis en cause, accusé d'avoir fait un usage disproportionné de la force. Et puis nous serons en direct de Las Vegas, la grand-messe des hautes technologies s'y déroule. Un salon de l'innovation aux couleurs tricolores cette année encore. 420 entreprises françaises ont fait le déplacement.
Europe 1.
Caméras et micros vont se braquer à partir de ce matin sur le tribunal correctionnel de Lyon. Le cardinal Philippe Barbarin ainsi que 5 anciens membres de son diocèse comparaissent. Ils sont accusés de non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs. Rejoignons notre correspondant à Lyon, Jean-Luc Boujon. Alors Jean-Luc, on reproche au cardinal Barbarin d'avoir couvert les agissements du prêtre Bernard Prénat sur de jeunes scouts, c'est bien cela ?
Oui, le cardinal en prend une première fois connaissance par un tiers en 2007, mais à ce moment-là, il juge que les faits sont anciens, les années 90, et qu'il n'y a eu depuis aucun indice de récidive. Il laisse donc le prêtre dans sa paroisse, en plus au contact d'enfants, puisque le père Prénat dispense les cours de catéchisme. Rebelote en 2014. Cette fois, c'est une victime qui vient devant lui et dénonce les agissements du prêtre, mais le cardinal attend plus d'un an avant de lui retirer son ministère. « J'ai mis en œuvre ce que m'a demandé Rome, qu'on me montre où j'ai fait une faute », a dit Philippe Barbarin il y a quelques semaines. C'est peut-être ce qu'il répétera tout à l'heure devant le tribunal, puisqu'il sera là, ont assuré ses avocats. Sauf que cette fois, face à lui, il y aura 10 victimes du père Prénat, 10 pour qui les faits n'ont pas été prescrits. Parmi celles-ci, François Devaux, fondateur de l'association La Parole Libérée.
C'est le procès du système. À chaque fois, on met en cause les prêtres pédophiles et on n'essaye jamais de savoir ce qui a permis en fait que la situation se pérennise. Personnellement, je n'attends pas de réponse du cardinal Barbarin par rapport à ces faits. Ce qui pourra dire peut-être présenter des excuses, mais en aucun cas ça ne peut répondre en fait à 25 années de silence.
Voilà les avocats du cardinal qui vont essayer de montrer que la procédure ne tient pas juridiquement, s'appuyant notamment sur le classement sans suite de l'affaire par le parquet de Lyon il y a 2 ans. Le procès va durer 3 jours.
Merci à vous Jean-Luc Boujon pour ces informations. Le cardinal Barbarin s'est exprimé hier dans une lettre. Demandons au Seigneur que s'accomplisse le travail de la justice et qu'il guérisse tout ce qui doit l'être dans le cœur des victimes, a écrit Philippe Barbarin.
Les suites de l'acte 8 du mouvement des Gilets jaunes.
Oui, avec des images qui tournent en boucle depuis samedi, des images de violence. D'un côté, à Paris, un boxeur professionnel frappe des gendarmes, il est à 7h toujours recherché. De l'autre, à Toulon, un commandant de police, Didier Andrieux, apparaît lui aussi dans une vidéo en train d'asséner plusieurs coups de poing à un manifestant. Le procureur de la République n'a pas ouvert de procédure, mais la préfecture a saisi la police des polices. Le commandant Didier Andrieux venait d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur dans la promotion du 1er janvier. Récit et précision signé Jacques Terrence.
Les images sont sans équivoque. Le commandant des policiers de Toulon apparaît visage découvert. Il donne plusieurs coups de poing au visage à un homme contre un mur. La scène est très violente. Des policiers finissent par s'interposer et par éloigner le commandant. Dans une deuxième séquence, le même policier frappe un second manifestant, cette fois sur un capot de voiture. Didier Andrieux a aussitôt justifié ses gestes. Il dit avoir été menacé, entre autres, avec un tesson de bouteille. Pour Frédéric Piquel du syndicat Alliance, le commandant a surtout voulu protéger ses hommes.
Qu'est-ce qu'il allait faire avec un tesson de bouteille? Il allait agresser forcément les collègues qui étaient de dos. Donc le commandant Andrieux intervient pour faire cesser préventivement en tout cas cette action qui allait devenir une agression envers des policiers.
En tout cas pour le procureur de Toulon, la réponse du policier était adaptée. Le parquet n'a donc pas ouvert de procédure. Mais coup de théâtre, hier soir, le préfet du Var a finalement saisi l'IGPN, la police des polices. Et l'enquête tiendra certainement compte du passif du commandant Andrieux, sanctionné il y a 4 ans pour un violent coup de coude sur l'un de ses collègues, qui s'en est sorti avec une fracture du nez. Et d'après un policier toulonnais, ce même commandant s'est aussi illustré par des violences verbales. Toulon, Jacques Terrence, Europe 1.
Et la question qu'on se pose ce matin, David Doucan, c'est justement quelle est la réponse qu'on peut apporter à cette crise qui n'en finit plus ?
C'est effectivement tout le défi pour le gouvernement d'Emmanuel Macron. On sait que dans l'espoir de rétablir l'ordre, l'exécutif est tenté par un durcissement de la répression. Le ministre des Comptes publics vient à l'instant d'en appeler face à
à l'ultra-violence à, je cite, l'ultra-sévérité. Et sur un plan politique, le gouvernement mise tout sur le grand débat national annoncé par le chef de l'État. Il doit commencer le 15 janvier prochain. Les équipes de Matignon, notamment, sont à pied d'œuvre pour en définir les règles et les contours. Aurélie Herbemont.
Au gouvernement et à la commission du débat public, on s'active pour que ce grand débat puisse enfin démarrer. La commission a préparé le mode d'emploi, comment animer une réunion, comment rédiger le compte-rendu des échanges. Le site internet où il faudra annoncer chaque réunion 7 jours avant son déroulement devrait être finalisé dans les jours qui viennent. Site où on trouvera aussi la contribution du gouvernement, car l'exécutif finalise des fiches pour contextualiser les thèmes du débat. Bercy, par exemple, a fait des notes sur l'argent prélevé par l'État, en détaillant où va cet argent, la répartition entre l'éducation, l'armée, etc. Le ministère de l'écologie a aussi planché sur un état des lieux des aides à la transition écologique existante. De son côté, Emmanuel Macron travaille sur la lettre qu'il va écrire aux Français. Après les nouvelles violences qui ont émaillé l'acte 8 des Gilets jaunes, le gouvernement espère que ces 2 mois de dialogue feront redescendre la tension, tout en étant conscient que les plus radicaux ne joueront pas forcément le jeu du débat.
Information signée Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
Et ce débat, ce fameux débat, sera chapeauté par la Commission nationale du débat public, présidée par Chantal Jouanneau, qui répondra aux questions d'Audrey Crespo-Mara à 8h15 dans quelques instants sur Europe 1.
Venons-en maintenant, Nikos, à la réouverture de la prison de la Santé à Paris. Après 4 ans de travaux, la célèbre maison d'arrêt a fait peau neuve. 60 détenus vont y prendre leur quartier dès aujourd'hui dans un établissement rénové, à la fois pour plus de confort, mais aussi plus de sécurité. Écoutez, Christelle Rotac, la directrice de la Santé, était l'invitée de Mathieu Noël tout à l'heure à 6h20 sur Europe 1.
Chaque personne détenue va pouvoir bénéficier d'un téléviseur, d'un réfrigérateur, d'une plaque chauffante, surtout d'une douche en cellule et aussi d'une ligne fixe qui lui permettra de rester en contact avec ses proches.
Elle en évoquait l'installation de brouilleurs de téléphone portable.
C'est ça, c'est le pendant de la ligne fixe, c'est le brouillage total de la détention et donc l'empêchement de l'entrée illicite des téléphones portables et des trafics qui sont liés à l'utilisation de ces téléphones portables. C'est une première dans les établissements pénitentiaires français. Et effectivement, c'est sur l'établissement de Paris La Santé que la mesure est déployée.
Christelle Rotac, la directrice de la prison de la Santé, au micro Europe 1 de Mathieu Noël.
On en parlait tout à l'heure avec Gérard Billard, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, un 7 janvier 2019. Triste anniversaire aujourd'hui.
Et oui, il y a 4 ans, les frères Kouachi perpétraient l'attentat de Charlie Hebdo. 12 personnes avaient été assassinées, parmi lesquelles les figures emblématiques du journal, Cabu, Volinsky, Honoré et Tinius. Que se passe-t-il ce matin au Gabon? Des coups de feu ont retenti dans la capitale Libreville. Peu de temps après, des militaires ont lu à la radio d'État un message indiquant qu'un conseil national de restauration était mis en place dans le pays en l'absence du président Ali Bongo, victime d'un AVC et actuellement en convalescence au Maroc.
Europe 1.
À suivre dans le journal, le fameux salon des hautes technologies qui ouvre ses portes à Las Vegas. Europe 1 sera sur place dans un instant, là où se construit le monde de demain, dans le journal de David Doucan. Juste après ça, tout de suite.
Il est 8h10, votre matinale info, Nikos Aliagas.
Avec David Doucan, nous allons partir maintenant aux États-Unis, à Las Vegas, dans le Nevada. Qu'est-ce qui se passe là-bas?
Oui, le fameux CES ouvre ses portes au public demain, le Consumer Electronic Show. C'est le salon des hautes technologies le plus couru au monde. On y découvre chaque année les innovations les plus excitantes. On peut aussi y croiser tous les ans François Geffrier du service économie d'Europe 1. Bonjour François.
Bonjour.
Alors, quelles vont être en 2019 les nouveautés qui vont faire le plus de bruit?
Eh bien, le bruit, ce sera celui des voitures autonomes. Ces véhicules sans chauffeur sillonnent les rues de Las Vegas, notamment le prototype du groupe français Valeo, bardé de capteurs et qui sait quoi faire face à un piéton comme un feu rouge. Alors, ça pose plein de questions puisque c'est la voiture qui prendra des décisions à notre place et qui nous permettra de faire autre chose pendant le trajet. L'intelligence artificielle également est omniprésente ici. Énormément d'exposants se targuent de l'utiliser dans leur logiciel pour qu'ils reconnaissent nos habitudes et anticipent nos besoins. Et puis, comme toujours, il y a des innovations plus anecdotiques, mais qu'on retient quand même. Le rasoir connecté, le miroir connecté, les chaussettes connectées ou encore l'incontournable machine à plier les vêtements.
Chaussettes connectées, je vous en commande. Pour nous, le prochain. En plus.
D'accord, merci à vous. C'est gentil.
On peut pousser un cocorico puisque, plus que d'habitude, la French Tech cartonne. On parle de 420 entreprises tricolores présentes dans le salon.
Oui, c'est un record. Les Français ont compris que ce salon était un tremplin mondial, à tel point que la France est la deuxième délégation de start-up derrière les États-Unis. Les jeunes pousses françaises sont particulièrement douées pour inventer le futur de notre santé, notre maison, capteurs intelligents, alarmes, qualité de l'air. Mais encore faut-il réussir à percer. Peu de start-up françaises émergent vraiment d'une année à l'autre, souvent faute d'investisseurs. Mais au moins, la France a désormais cette image d'une nation innovante.
Merci à vous, François Geffrier. Vous étiez en direct de Las Vegas pour Europe 1.
Mais François qui animera avec Grégoire Martinez une nuit américaine en direct du CES de Las Vegas dans la nuit de mardi à mercredi de 1h à 5h du matin.
Restons, Nikos, dans le domaine du progrès, mais en matière de médecine maintenant. Des chercheurs américains ont démontré qu'ils étaient capables de détecter la maladie d'Alzheimer avec en moyenne 6 ans d'avance grâce à l'intelligence artificielle. La machine plus performante que l'homme pour poser des diagnostics, les précisions de Mélanie Gomez.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une cellule du cerveau en bonne santé consomme du glucose, du sucre. Donc ce que ces chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont récupéré des images de cerveau scannées sur lesquelles les cellules apparaissent en rouge quand elles fonctionnent bien et brûlent du glucose, et en bleu lorsque c'est l'inverse et qu'elles sont malades. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces variations de couleur et surtout d'intensité de couleur, elles sont quasi indétectables à l'œil nu pour les radiologues au début de la maladie. Or l'intelligence artificielle, elle y parvient. L'œil de la machine est plus sensible, précise le professeur Amouyel, président de la Fondation Alzheimer, en tout cas une fois entraîné par ses chercheurs.
Après avoir appris à lire ces images à l'aide d'un millier de patients, ils ont refait cette expérience sur 40 autres patients. Ils ont regardé grâce à leur algorithme d'intelligence artificielle si les patients étaient malades ou non malades. Et ainsi, ils ont pu identifier les futurs malades avec presque 6 ans d'avance sur le diagnostic clinique sans utilisation d'intelligence artificielle.
Alors on pourrait se demander quel est l'intérêt de dépister Alzheimer aussitôt, puisqu'à ce jour il n'y a aucun traitement curatif, mais en fait dépister tôt, c'est déceler la maladie avant que le cerveau ne soit trop abîmé et donc pouvoir proposer bientôt des médicaments qui ralentissent la progression d'Alzheimer.
Les précisions de la spécialiste santé d'Europe 1, Mélanie Gomez.
C'était le journal de David Doucan.
La matinale d'Europe 1.
Nikos Aliagas.
Et à 8h13, on jette un coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Nikos.
Et en Espagne, le nouveau parti de la droite radicale qui s'appelle Vox met une condition à son soutien au Parti populaire pour gouverner l'Andalousie. En fait, il veut l'abandon des projets des lois féministes. Vincent
oui,
Hervouet.
Alors revenir sur le féminisme dans le pays d'Europe qui est allé le plus loin en la matière, c'est la pagaille, c'est une véritable contre-révolution. Mais avant, il faut que je vous raconte la vidéo du week-end.
Oui.
Alors hier, c'était l'épiphanie, mais en Espagne, on ne se contente pas de manger de la frangipane, les rois mages apportent aux enfants leur cadeau de Noël. Le Parti populaire a tweeté un clip. Le père découvre la lettre de son gamin. « Cher roi mage, ma chanteuse préférée était Amy Winehouse et vous me l'avez enlevée. Mon acteur préféré était Robin Williams et vous me l'avez enlevée. Mon humoriste préféré était Chiquito de la Calzada et vous me l'avez aussi enlevée. Alors je vous écris juste pour vous dire que mon premier ministre préféré est Pedro Sanchez. »
C'est un appel au meurtre.
Alors c'est une vieille blague, ouais. Assez gilet jaune, mais dans un pays saigné par le terrorisme, elle a fait rire jaune. Le Parti Socialiste s'indigne, le Parti Populaire regrette d'avoir choqué, et tous les deux sont complètement hypocrites, car le premier adore se victimiser, et l'autre essayait d'être transgressif, de choquer. Et on comprend que les deux vieux partis de gouvernement font l'intéressant, à défaut de faire des réformes, qu'étant incapables de rassembler une majorité, ils tentent de retenir un public. Pendant 40 ans, ces deux-là ont alterné au pouvoir. Bruxelles était leur terre promise, ils gouvernaient au centre. Et puis, les partis sont émiettés, place aux indépendantistes, place aux surenchères idéologiques, Podemos, Ciudadanos, et puis le dernier, Vox, comme Vox Populi, le parti de droite qui a surgi dans le bastion socialiste, l'Andalousie, et ça c'est un tremblement de terre.
Et le féminisme dans tout ça, Vincent Hervouet?
Alors Vox, c'est le parti anti-immigration et anti-indépendantiste, mais c'est aussi le parti anti-féministe qu'on avait oublié. Depuis 15 ans, tout un arsenal juridique en Espagne impose une discrimination positive en faveur des femmes dans les entreprises et dans les administrations, en plus de mesures draconiennes contre la violence machiste. Ça faisait consensus. D'ailleurs, les centristes de Ciudadanos et les libéraux du Parti populaire prévoyaient de renforcer encore ces législations. Pas question, dit aujourd'hui la droite autoritaire, dont les voix sont nécessaires pour gouverner l'Andalousie. Le féminisme travaille à la désintégration intégration du modèle de civilisation occidentale. Alors c'est un sacré dilemme pour les dirigeants de la droite espagnole, parce qu'ils préféraient croire évidemment au roi mage, qu'un retour au pouvoir est possible sans la reconquista, sans la reconquête du terrain idéologique qui a été abandonné depuis 40 ans aux progressistes.
Et la guerre au féminisme en Espagne, c'est la société un peu de Pedro Almodovar qui est remise en cause.
Ben, en France, la droite fait le procès de mai 68, hein, les Gilets jaunes aussi d'ailleurs. Hein. Et ben, en Espagne, c'est plutôt effectivement la société de Pedro Almodovar, la société de la Movida, qui est mise aujourd'hui en accusation. Si tienes un hondo
penar, piensa. Je vous imagine bien danser un tango enflammé.
Está bien.
Muchas gracias.
Et feliz año nuevo.
Exactement. Bonne année à vous. Vincent Herouet sur Europe 1.
Europe 1. Il est 8h17.
Audrey Crespo-Mara, dans quelques instants, votre invitée est une ancienne ministre de Nicolas Sarkozy.
Oui, bonjour. Elle est celle qui a été mandatée par Édouard Philippe pour organiser le grand débat national censé répondre aux attentes des Gilets jaunes. Mais certains contestent déjà sa légitimité. Chantal Jouanneau, présidente de la Commission nationale du débat public, sera mon invitée.
A tout de suite sur Europe
1. Il est 8h18, Nico Saliagas.
La présidente de la Commission nationale du débat public, Chantal Jouanneau, et votre invitée, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Chantal Jouanneau.
Bonjour.
Vous avez été choisie par Édouard Philippe pour organiser le grand débat national voulu par Emmanuel Macron pour répondre à la colère des Gilets jaunes. Alors comme ça, c'est sur une ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, une ancienne ministre de l'ancien monde que repose la réconciliation avec les Français.
C'est plutôt sur la présidente de la Commission nationale du débat public qui a été créée elle, il y a plus de 20 ans et qui est une autorité indépendante. Donc je ne suis pas toute seule. Et il y a 25 commissaires qui garantissent l'indépendance de la démarche et c'est le plus important.
Mais quand même, ancienne ministre. Alors les Gilets jaunes en colère emmenés par Priscilla Ludowski ne veulent pas de vous comme présidente du grand débat national. Ils estiment que vous faites trop partie du système. Ancienne ministre, ancienne sénatrice, ça commence mal.
Je ne fais plus de politique, et ça, ils le savent.
Mais ils ont suivi, manifestement.
J'ai déjà échangé avec eux. Je ne fais plus de politique. Et puis la démarche, en fait, elle ne repose pas sur moi, en réalité. La démarche, elle sera portée par toutes celles et tous ceux qui vont organiser des réunions. Elle va être complètement diffuse. Et ça, ça évite de toute façon, par qui que ce soit, tout risque de récupération.
Mais vous comprenez leur défiance, la défiance qu'il y a aujourd'hui à l'égard des politiques, et vous en avez été une, hein, vous étiez sénatrice encore en 2017.
Il y a une défiance à l'égard de l'ensemble des institutions, d'ailleurs pas que les politiques, tout ce qui incarne le pouvoir en général. Et c'est très très marqué dans tous les courriers qu'on reçoit de personnes qui se disent citoyens ordinaires, et à ce titre, ils sont plus légitimes que les autres pour pouvoir s'exprimer.
Et donc, c'est pas simple de les convaincre, quand on a quand même été ministre et sénatrice, non ?
C'est jamais simple, non, évidemment. Et j'ai pas à les convaincre. Mon rôle n'est pas de les convaincre. Mon rôle est simplement de les amener à parler, et surtout que les décideurs les écoutent.
Alors, il y a une telle défiance à l'égard des politiques qu'un ministère a été pris pour cible ce week-end. Ça vous effraie ?
C'est la limite du débat public. Le débat s'arrête là où la violence commence. Donc,
ça vous effraie ce qui s'est passé ce week-end ?
C'est toujours effectivement un signe important. C'est un signe aujourd'hui, alors effrayant, en tout cas c'est un signe très marquant pour la République. Et c'est d'où l'importance de pouvoir retourner dans les salles pour débattre et non pas se confronter.
Et concernant justement la sécurité autour du grand débat national, les garants, donc ces personnes qui garantissent sa bonne tenue, qui dépendent de votre commission, ont peur pour certains, peur de se faire agresser. Comment garantissez-vous leur sécurité ?
Ils sont garants de la neutralité du débat. Ils sont garants parfois de l'animation. Quand on dans une salle, un maire nous dit « moi, je ne veux pas animer moi-même parce que j'ai peur d'être pris à partie, parce que ça va créer de la défiance ». Donc c'est eux qui vont animer.
Mais il y a une sécurité mise en place autour ?
On a fait beaucoup de débats publics, énormément, sur des sujets très sensibles, y compris le nucléaire.
Mais chez là, nous, on voit que c'est beaucoup plus violent.
Oui, mais chez nous,
les salles
ne sont jamais fermé. Si on commence à fermer les salles, on n'est plus dans du débat public.
Il n'y a pas de sécurité particulière.
Il peut y arriver qu'il y ait de la sécurité, mais jamais pour fermer des salles.
Alors, il va y avoir donc une plateforme numérique, des réunions locales. Vous avez reçu les cahiers de doléances de quelques milliers de communes rurales. Vous dites que ce qu'il en ressort, c'est un sentiment d'injustice sociale, fiscale aussi. Vous n'avez pas l'impression d'annoncer ce que tout le monde sait déjà ?
Ça, c'est la première partie, en fait, qu'on avait reçu des synthèses provisoires des maires. Effectivement, le thème de la justice sociale est le premier, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. L'intérêt, en fait, c'est que là, ils ont recensé, en fait, des thèmes intéressant de débat. Maintenant, l'intérêt, c'est de mettre les personnes dans des salles, qu'elles se regardent droit dans les yeux et qu'elles débattent, qu'elles échangent des arguments qui sont souvent différents, souvent opposés, et qu'elles construisent ensemble. Donc, c'est une nouvelle phase.
Mais ces thèmes-là, on les connaît déjà. Le pouvoir d'achat, l'injustice fiscale.
Oui, mais maintenant, il faut en débattre. Et concrètement, qu'est-ce qu'on propose ? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Et donc, notre rôle à nous, ce n'est pas simplement de faire le constat de la situation, c'est aussi de mettre noir sur blanc l'ensemble des propositions faites par nos concitoyens.
Alors, le Conseil économique, social et environnemental vous a pris de vitesse en organisant une première consultation numérique suite à la crise des Gilets jaunes. Parmi les 5000 propositions soumises au vote, et il y a eu plus de 250 000 votes, c'est l'abrogation du mariage homosexuel qui a recueilli le plus de voix. Vous avez prévu de rouvrir le débat sur ce sujet ?
Nous, non. Mais peut-être que nos concitoyens voudront le faire.
Donc le problème, on peut à nouveau en débattre, on peut envisager d'abroger le mariage pour tous.
Nous, on est toujours assez réservé quand on ne fait du débat qu'avec un outil. Par exemple, qu'avec l'outil numérique. Déjà, ça exclut beaucoup de personnes. Et en plus, le risque, effectivement, c'est que ce soit préempté par certains groupes. D'où l'intérêt d'avoir non seulement une plateforme, mais aussi énormément de réunions partout sur le territoire, au plus près dans les quartiers.
Mais on pourrait ouvrir le débat sur le mariage pour tous, par exemple.
Mais si des personnes dans des salles, si des personnes veulent organiser une réunion pour réouvrir ce débat, elle est parfaitement libre de le faire.
Et on envisage d'abroger ce mariage pour tous.
Nous n'interdisons aucun thème. Ensuite, c'est au gouvernement de décider ce qu'il en fera. Ou pas. Le débat n'est pas conclusif, c'est-à-dire le débat n'impose aucune décision. On dit voilà ce que les personnes pensent, voilà ce qu'elles proposent, maintenant c'est à vous, gouvernement, de décider ce que vous retenez ou pas.
Donc les gens peuvent penser qu'on va les écouter, que finalement le gouvernement fera ce qu'il veut.
C'est tout l'intérêt aujourd'hui que le gouvernement s'engage de manière très très claire sur la manière dont il va tenir compte des résultats, et c'est probablement je l'espère, en tout cas je n'ai pas son contenu, mais l'objet de la lettre que le président veut adresser à tous.
Et parce que si on avait écouté l'opinion, donc on n'aurait pas autorisé l'avortement, on n'aurait pas aboli la peine de mort, on n'aurait pas légalisé le mariage pour tous. N'y a-t-il pas un danger à laisser le peuple parler librement, s'exprimer librement ?
Ah, ça s'appelle quand même la démocratie, que le peuple puisse s'exprimer, au contraire.
Mais envisager rétablir la peine de mort.
Là, vous n'avez que 250 000 votes. Le peuple, c'est beaucoup plus large que ça. Et comme je vous le disais, le problème des plateformes numériques, c'est qu'elles peuvent être préemptées par certains groupes. Le débat sera beaucoup plus large que ça. Et vous verrez que ces résultats seront certainement beaucoup plus constructif. En général, les débats publics, c'est extrêmement constructif. On en a fait énormément. Et c'est au contraire très rassurant sur le fait que le peuple est très constructif.
Et ensuite, le gouvernement décidera donc. Dans ce grand débat national, est-ce qu'on peut parler de tout ? Le président a promis que l'immigration, par exemple, serait un thème à part entière. Or, l'immigration est devenue une sous-partie d'un thème, la citoyenneté. Donc ça prouve que le gouvernement exerce une forme de censure a priori, en fait.
Non, le gouvernement a dit, voilà les quatre thèmes sur lesquels moi, je m'interroge et sur lesquels je souhaite aller plus loin. Mais ceci dit, dans le débat, les personnes peuvent se saisir de tous les sujets, bien au-delà des questions sociales, par exemple, puisque beaucoup de personnes ont voulu parler de handicap, de la protection judiciaire de la jeunesse. J'ai une personne qui m'a interpellée sur ce sujet. Donc elles pourront aller bien au-delà des quatre thèmes qui ont été identifiés par le gouvernement.
Qui ensuite décidera de prendre ce qu'il veut, quoi.
Eh oui, mais c'est comme ça qu'aujourd'hui le débat est organisé.
C'est la limite du débat. Lors des vœux, puis du Conseil des ministres, il y a quelques jours, le président avait l'air d'avoir une idée très claire des réformes à mener en 2019. Vous croyez vraiment qu'il va tenir compte des propositions alors qu'il a déjà son plan en tête ?
Dès lors qu'on ouvre cette démarche, qui est vraiment une démarche inédite, elle est inédite en France, elle est inédite aussi à l'étranger, et en plus portée par une instance tierce, qui est une commission nationale. Dès lors qu'on ouvre ce type de débat, de toute façon, c'est impossible ensuite de n'écouter que ce qu'on a envie d'entendre.
Ça peut emmener à changer de cap ?
Ça c'est lui qui vous le dira. Ça, je suis vraiment pas. Je ne fais pas de politique. Je suis devenue vraiment neutre. C'est mon rôle. Et donc, je sortirai de mon rôle si je vous répondais sur ce point. Toujours est-il qu'un débat, forcément, amène ensuite des décisions. Et en général, ça va plus loin que ce qu'on imagine. Toujours.
L'opportunité de ce grand débat national, alors que des arbitrages budgétaires notamment ont été faits, divise au sein du gouvernement. On parle d'un Premier ministre qui n'est pas très chaud, on parle de Bruno Le Maire, Gérald Darmanin à Bercy, qui estiment qu'ils ne vont pas détricoter ce qu'ils ont déjà fait. Donc, est-ce que ça peut amener à quelque chose de très concret finalement ?
Moi, j'ai eu des échanges avec le Premier ministre qui était au contraire très, très, très porteur sur le débat. Ensuite, que l'opportunité de faire un débat public divise, c'est parfaitement normal.
Ça contrarie des ministres en action.
Personne ne s'est exprimé auprès de moi en ce sens, mais c'est normal. C'est une démarche quand même très audacieuse, honnêtement. C'est un débat à cette échelle sur tous les sujets. C'est une photographie de la France qui n'a jamais été faite.
Depuis le début, vous brandissez, Chantal Jouanneau, la menace de refuser la mission du gouvernement si le débat manque de neutralité. Mmh. Quelle est la ligne à ne pas franchir sous peine de provoquer votre démission ?
La ligne la plus importante, puisque là c'est un problème entre guillemets institutionnel, dès lors qu'on a demandé à la CNDP de piloter cette démarche, donc la Commission nationale du débat public, effectivement, c'est que l'organisation jusqu'à la restitution soit sous l'autorité de la CNDP et qu'il n'y ait aucune intervention à ce niveau-là. Et c'est important en termes de confiance pour celles et ceux qui veulent participer au débat, parce que ça prouve que le gouvernement sera bien dans un temps d'écoute.
S'il y a une intervention du président, du Premier ministre, vous partirez, c'est sûr.
Bah oui, je l'ai dit.
Merci Chantal Jouanneau.
Merci pour l'interview politique. Audrey Crespo-Mara, merci Chantal Jouanneau.
Europe 1, il est 8h28.
À suivre la revue de presse avec David Abiker. Le lundi, vous êtes viande, poisson ou pas du tout? En tout cas, ça fait la une du journal aujourd'hui en France. À tout de suite, on en parle.
Presse de David Abiker, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Aujourd'hui et puis les jours à venir.
Aujourd'hui, Nikos, on l'a dit, et je le rappelle, c'est vraiment un ciel gris pour tout le monde. Il y a vraiment peu d'exceptions, si les Cévennes, le Larzac, le bassin méditerranéen, les Alpes et les Pyrénées. Demain, mardi, sur la moitié sud, de la pluie et même de la neige dans les régions de l'Est. Alors, un peu sur la moitié sud, mais surtout dans l'Est, de la neige à 300 mètres d'altitude, sur l'Alsace, par exemple, les Vosges, la région Rhône-Alpes. C'est un bon petit enneigement pour ceux qui attendent la neige, justement, en montagne et les stations de sport d'hiver. Sur la moitié nord, demain, mardi, les éclaircies. Enfin, peut-être auront-nous enfin les éclaircies sur Paris, qui est la ville sur laquelle, je crois, il n'y a eu que 30 minutes de soleil depuis Noël, c'est dire. Mercredi 9, des éclaircies progressent par l'Atlantique. Toujours un petit peu de neige sur la Lorraine, l'Alsace et le Dijonais et la région Rhône-Alpes. En Méditerranée, des vents jusqu'à 110 km/h. Jeudi, ce sera un petit peu comme mercredi, donc un temps d'éclaircies, en général, par l'ouest. Vendredi 11, gris au nord, puis lumineux au sud. Samedi 12 et dimanche 13, humide, pluvieux, neigeux ou pluvieux, neigeux, comme vous voulez. Avec des températures qui sont dans l'ensemble assez froides. Donc on ne change pas grosso modo de type de temps, on reste dans le froid. Et il pourrait y avoir quand même un coup de froid assez sérieux après le 15 janvier.
On fera attention. Merci Laurent Cabrol. À tout à l'heure pour un autre point météo.
À suivre dans la prochaine demi-heure, Nikos.
David Abiker, la revue de presse. 8h40, attention, il est de retour. L'animal canteloup et son lot de mauvaises résolutions. Ce sera la revue de presse.
Et nous sommes aujourd'hui le lundi 7 janvier. L'actualité en bref à retenir, Nikos Aliagas.
C'est dans une heure que débutera le procès du cardinal Philippe Barbarin devant le tribunal correctionnel de Lyon avec 5 anciens membres du diocèse. Il est poursuivi pour ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles commises dans les années 90 par le père Prénat sur de jeunes scouts. Pierre-Emmanuel Germain-Thil fait partie des victimes, écoutez-le.
Si je pouvais m'adresser à lui, je lui dirais, mais pourquoi quand quelqu'un vous avoue qu'il a été pédophile, qu'il a abusé d'enfants, vous lui faites une promotion en tant que doyen de plusieurs paroisses derrière? Pour moi, ça c'est de l'irresponsabilité. Je veux dire, c'est comme dans une entreprise où quelqu'un fait une faute très grave. Là, on parle vraiment d'abus sur enfants, qu'on vous avoue et vous faites une promotion à cette personne derrière. C'est lui donner encore une légitimité et ça, pour moi, c'est extrêmement grave. Je pense qu'un vrai mea culpa serait bienvenu, ce serait important. C'est quand même des personnes qui ont su, qui ont tué, qui n'ont pas forcément dénoncé, qui n'ont pas agi dans les temps et qui se sont un peu refilé la patate chaude pendant plusieurs années. Il faut que ce genre de choses s'arrête et change, quoi.
L'une des victimes du père Prénat, interrogé pour Europe 1 par Jean-Luc Bougeon. L'acte 8 du mouvement des Gilets jaunes restera marqué notamment par cette image d'une extrême violence, celle d'un manifestant qui, sur un pont parisien, frappe très violemment à coups de poing deux gendarmes, dont l'un à terre. Il a été identifié mais pas encore arrêté. Il s'agit d'un ancien boxeur professionnel. Écoutez son ex-entraîneur, Jackie Tromsos.
Il était gentil, très très respectueux, tout. Alors si il a fait ça, je ne peux qu'associer ça à un garçon qui a vu une injustice, c'est-à-dire des femmes, des retraités, se faire gazer, se faire taper. C'est tout, ce garçon-là, c'est pas lui, c'est un garçon gentil.
Jackie Tromsos au micro de Pauline Jacquot. À Toulon, le préfet du Var a saisi la police des polices après la diffusion d'une vidéo où l'on voit notamment un commandant divisionnaire frapper des manifestants. Hommage aux victimes des attentats de janvier 2015, aujourd'hui à Paris, 4 ans après, en présence de Christophe Castaner et de la maire de la capitale, Anne Hidalgo. Dans l'actualité également, l'alliance automobile Renault-Nissan n'est absolument pas en danger. Déclaration du patron du constructeur japonais ce matin à nos confrères de l'AFP, alors que Carlos Ghosn est détenu à Tokyo depuis le 19 novembre.
Une tentative de coup d'État au Gabon, le président Ali Bongo étant convalescence au Maroc, des militaires ont appelé le peuple gabonais à se lever. Football, dernier match des 32e de finale de la Coupe de France. Lille, actuelle 2e de la Ligue 1, reçoit Sochaux, 16e de Ligue 2.
Europe 1. Il est 8h33, Nico Saliagas, tout de suite la revue de presse avec David Abiker.
Bonjour David Abiker.
Bonjour Nico, bonjour Céline, bonjour. Et bonjour à tous. Alors ce matin dans la presse, eh bien, c'est la violence qui est championne, une violence qui s'incarne à travers deux boxeurs. À ma gauche, Christophe Détinger, ancien champion de France professionnel des lourds légers, dont le journal L'Équipe raconte le parcours sans histoire. On vient de l'entendre, il était gentil, histoire de ses débuts dans la boxe à Sainte-Geneviève-des-Bois jusqu'au pont Senghor à Paris samedi, où il a été filmé frappant un policier à terre, puis un autre. Il est devenu l'idole sur les réseaux sociaux des Gilets jaunes, mais il se cherche un avocat. À ma droite, Didier Andrieux, officier de police filmé lui à Toulon frappant un manifestant et qui s'était déjà signalé il y a 2 ans par des coups sur un collègue. Vidéo choc à Toulon, titre ce matin Var Matin. Alors au-delà des boxeurs en images, l'État cherche des ripostes à la crise des gilets jaunes, des ripostes face à la violence. C'est la une du Figaro. La violence de la presse ce matin, c'est aussi celle du silence qui a longtemps entouré les actes de pédophilie dans les rangs de l'Église et dont le procès du cardinal Barbarin est le symbole ce matin, en une de la Croix. La violence, c'est encore celle dont on se souvient 4 ans après les attentats de Charlie Hebdo et de la supérette Cachère dans la Provence, qui se demande aujourd'hui ce qu'il reste dans la France de nos indignations, la France d'aujourd'hui. Mais je vais vous dire, ne nous fions pas à cet effet d'optique qui conduit souvent la presse à guetter le désastre. Un exemple, un seul, le recul de la violence routière, qui fait la une du courrier Picard. 53 vies épargnées sur la route en 2018 par rapport à 2017. 53 vies qui tiennent la violence à distance.
En tout cas, face à la violence, pour le moment, du côté politique, c'est l'impasse.
Pour le gouvernement, comme pour les gilets jaunes, on cherche l'issue. C'est le Figaro qui, ce matin, raconte comment l'exécutif s'est laissé surprendre par cet acte 8 et le regain de mobilisation des gilets jaunes. Anticiper la mobilisation est devenu impossible, explique le quotidien, car les services de renseignement ne peuvent même plus se fier à Facebook, puisque les manifestants communiquent désormais leurs intentions sur des messageries cryptées. Le Figaro qui pointe également les hésitations du gouvernement a apporté une réponse sécuritaire qui ne fait pas l'unanimité en serrant tout en pariant sur le grand débat que le président lancera le 15 janvier. Grand débat qui ne fait pas non plus l'unanimité. C'est compliqué aussi dans les rangs de l'opposition. Aucun parti n'est capable de condamner franchement les violences sans invoquer la responsabilité du gouvernement. C'est le débat de la poule et de l'œuf, sauf qu'à la place de l'œuf, il y a la violence. Intéressantes aussi les hésitations des gilets jaunes racontées ce matin par Libération.
Les gilets jaunes ne veulent pas se structurer.
Libération relate effectivement ce matin le déroulement compliqué et contesté de la réunion qui a rassemblé samedi à Marseille une 60aine de gilets jaunes venus de toute la France et montés avec l'aide logistique de la Provence et de Bernard Tapie. Une réunion immédiatement contestée par des gilets jaunes, opposée à toute tentative de représentation par des gilets jaunes. Une drôle d'ambiance donc du côté gilets jaunes comme du côté des politiques. Ce qui fait dire malgré tout à Jean-Michel Le Bretonnier dans La Voix du Nord qu'on ne trouvera pas les réponses et les remèdes à la crise et à la violence. On les trouvera qu'en faisant de la politique.
David, vous évoquiez la violence en une de nombreux titres, de nombreux quotidiens à travers le pays. Mais Le Parisien aujourd'hui en France fait exception.
En tout cas, Le Quotidien nous propose de nous faire violence à nous-mêmes. Et c'est très supportable puisque Le Parisien aujourd'hui en France relaie, explique et défend l'appel de 500 personnalités à ne consommer ni viande ni poisson le lundi, avec tout de même à une, cette question, à quoi bon ?
Et nous sommes en ligne avec Frédéric Mouchon, journaliste parisien aujourd'hui en France, auteur de ce dossier. Bonjour Frédéric Mouchon. Pourquoi votre journal a-t-il décidé de relayer cet appel et de le défendre ?
Parce qu'en fait, ce passer de viande et de poisson une fois par semaine, c'est quelque chose qui est relativement facile à faire et ça présente surtout bien plus d'avantages que d'inconvénients. Il y a des avantages pour la santé, des avantages pour la planète et pour ceux qui sont sensibles à la cause animale, c'est aussi bon pour défendre les animaux.
Mais j'ouvre le journal, vous donnez des conseils aux Français pour manger moins de viande. Comment faire ? Il faut manger des steaks de soja, dites-vous.
Alors, pas forcément, vous pouvez manger des steaks de soja, vous pouvez aussi manger davantage de céréales, de légumineuses. On a interrogé des personnalités comme Yann Arthus Bertrand ou Isabelle Autissi, qui, alors, elles, se passent de viande et de poisson depuis des années. Mais voilà, elles cultivent des pois, des lentilles, elles mangent des navets, des choux, beaucoup de légumes. Mais on peut aussi tout simplement considérer que manger de la viande une ou deux fois par semaine, c'est bien suffisant. On peut manger des œufs, on peut manger des salades, donc c'est pas très très compliqué. Et en plus,
des insectes aussi, dites-vous dans l'article.
Oui, c'est bon, des insectes. Oui, bon,
mais c'est pas alors, de la viande, le criquet, je comprends pas. Si.
C'est des grillés, en tout cas en paprika, c'est très très bon. Oui. vous pouvez, si vous voulez pas manger de criquet, vous pouvez manger bien d'autres choses, hein, du riz, des lentilles, comme je le disais, du fromage, des laitages. Voilà.
Vous allez manger quoi aujourd'hui, Frédéric Mouchon?
Eh ben écoutez, moi je vais essayer de. Moi je me suis. J'essaye de respecter quelque chose que je me suis. Dont j'ai pris l'habitude depuis quelques mois, c'est de manger au moins des fruits et légumes une fois par jour, enfin une fois tous les 24 heures. Donc en fait, du matin jusqu'au matin suivant, je mange que des fruits et légumes.
Ce que fait ma femme.
Voilà, ça fait du bien au foie et c'est moins bon pour le poids aussi.
Merci beaucoup en tous les cas, c'est courageux aujourd'hui en plein actu, effectivement, de commémoration de Charlie Hebdo ou des Gilets jaunes, d'aller sur un autre dossier à la une d'un quotidien national. Aujourd'hui en France, c'était Frédéric Mouchon qui travaille donc dans le journal, dans la rédaction du journal. Vous allez, vous, mon cher David, faire un petit régime spécial aujourd'hui?
Bah en fait, je mange de moins en moins de viande, comme tous les Français. En fait, c'est ce qu'explique le Parisien. Les Français s'y mettent. Ça fait 10 ans que la consommation de viande est en train de baisser.
Vous ne mangez pas des steaks dorés, vous?
Ah, vous m'amenez vers l'histoire du week-end, la polémique Ribéry. Ouais. Elle a fait causer, effectivement, samedi, dimanche, la côte de bœuf dorée de Franck Ribéry, photographiée à Dubaï devant ce plat de résistance. C'est une côte de bœuf qui a cristallisé toutes les haines sur les réseaux sociaux. D'abord la haine de l'argent, cacher cet or que l'on ne saurait ni voir ni manger. On lui a reproché aussi le prix fantaisiste de son plat rôti par un chef turc habitué des grillades bling-bling. Faut voir ses vidéos sur Internet, c'est quelque chose. Ribéry s'est aussi attiré les foudres morales de l'ancienne journaliste Audrey Pulvar, à qui il a renvoyé ses lunettes de luxe à la figure. Évidemment, les végans ont tourné de l'œil devant cet étalage de bidoche. Alors Ribéry a mis son gilet d'or et il s'est lâché contre tout le monde et contre les rageux et contre leur mère et contre leur grand-mère dans un langage si fleuri que son club a décidé de le sanctionner. L'histoire de la côte de bœuf de Ribéry est exemplaire. Car ce que le Bayern de Munich a sanctionné, ce n'est pas la liberté du joueur mais de manger ce qu'il veut, mais les insultes qu'il a proférées sur Internet contre ses détracteurs. Quand on joue et qu'on représente un grand club comme le Bayern de Munich, on surveille d'abord son langage avant de surveiller son régime alimentaire. Ceci dit, on peut aussi surveiller les deux.
Et parfois le silence est d'or. Et parfois le silence nous rappelle que les grands qui sont partis, les grandes voix en or, resteront éternelles à jamais. Ça fait un an qu'elle nous a quitté, France Gall. Un an. Ça fait du bien, un peu France Gall.
Musique met en ordre nos peines.
Exactement. David Abiker, quotidiennement pour la revue de presse.
Il est 8h42. Il est 8h43.
Nicolas Canteloup et Julie pour la première matinale, notre première matinale de rentrée ici sur Europe 1 ce matin.
Presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on commence avec vous, Nikos, pour le rappel du titre principal de l'actu.
Eh oui, ma chère Julie, c'est Nikos Happy New Year à tous. Mon invité, vous le savez, à 7h45, était Gérard Billard, le directeur de Charlie Hebdo. Ce matin, on a une pensée donc pour Charlie. On est dans un pays, il ne faut pas l'oublier, où on a la chance de porter l'étendard de la liberté. Voilà, oula, c'est toujours bien de démarrer dans la légèreté. Voilà. Quel bonheur quand au réveil sonne, chers amis, à 2h04 du matin. On sort dehors, il fait nuit, il fait moins 3 degrés, on est heureux.
Oui, vous l'avez compris, en bonne résolution, cette année, j'ai décidé de ne pas arrêter de mentir. Voilà. Allez, au boulot, car il y a le titre Surround du Morning, chez Twitter. Après Santa Claus, après Santa Barbara, ce matin, c'est Santa Barbarin.
Oh. Oui, bien.
Le procès de non-dénonciation, nous l'avons dit et répété, du cardinal Barbarin s'ouvre ce matin. La justice lui reproche d'avoir donc couvert les jasismes. Les jasismes.
Attention, tu me ressembles là.
Les jasismes pédophiles sur des jeunes scouts. C'est là qu'on voit qu'il y a du coup beaucoup d'argent à l'église. Contrairement aux Français, aux jeunes Français lambda, un prêtre sans encore les moyens de faire tous les jours le plein de son scout.
Oh non,
dégueu celle-là.
C'est casse-gueule, c'est
casse-gueule.
Comme Title of the News. À toi Julie, rattrape-moi ça Julie.
Rattrape-moi ça, merci du cadeau. Eh ben on va enchaîner, on va parler de la crise des gilets jaunes qui pourrait coûter 0,1 point de croissance. On va en parler avec notre éditorialiste économique Nicolas Barré. C'est un chiffre plausible, Nicolas?
Oui, bonjour Julie. D'abord, point d'année à vous. C'était bien.
Merci.
Votre réveillon.
Très bien.
Moi, c'était super.
Racontez.
J'ai fait des chapeaux en papier avec les pages saumon du Figaro.
Oh oui, c'est joli.
Et puis après, j'ai attendu mes invités. Bon, le souci, personne n'est venu. Donc, j'ai déplié les chapeaux et j'ai lu les indices boursiers toute la soirée. Et quand j'ai vu que l'action Saint-Gobain avait pris 2,7%, j'ai crié « Bonne année !» Et après, je suis allé me coucher. Bon, j'étais crevé. J'ai plus 20 ans. Je ne peux plus m'éclater jusqu'à des 22h, 22h15 sans le payer le lendemain.
Bah, en tout cas, ça avait l'air bien. Alors, cette crise pourrait coûter 0,1% de croissance selon le ministère de l'Économie. Bruno Le Maire, c'est crédible ?
C'est incroyable, ben, c'est pas Bruno Le Maire, c'est toujours
Nicolas. Oui, c'est Bruno,
Nicolas.
Oui, je me suis un peu trompé, le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Oui. Est-ce que c'est crédible Nicolas Barré?
Oui, ben écoutez, c'est à nuancer Julie. Si on en croit les projections réalisées par mes soins pendant mon repas de réveillon solitaire...
Avec un chapeau en papier.
Oui, je me suis vraiment éclaté Nico, c'est la folie. Le mouvement des gilets jaunes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pourrait être bénéfique pour la croissance.
Ah bon?
Bah, écoutez, prenons un exemple tout bête. Hier, des gilets jaunes ont malencontreusement brûlé ma voiture. Eh bien, c'est fantastique pour la croissance.
Oh, pauvre Nicolas. Bah, vous avez brûlé votre voiture.
Oui, c'est vrai que c'était une voiture à laquelle je tenais. C'était une Twingo de 1998.
98, hein.
Oui, à laquelle j'étais très attaché. Je la tenais de Jean-Pierre Gaillard, qui me l'avait vendue 1200 euros. Vous souvenez, Nico, ce Wendy de Jean-Pierre Gaillard.
Évidemment, la classe, Jean-Pierre Gaillard.
Bon, enfin, bref, faut voir plus loin que le bout de son capot. Ces voitures brûlées, il faut les remplacer. Comme le mobilier urbain ou les portes de ministère. Oui, les portes de ministère enfoncées. Selon mes estimations, la France sera, après le mouvement des gilets jaunes, dans le même état qu'après la Deuxième Guerre mondiale.
S'il vous plaît.
Et demandez à Jean-Michel Apathy. À moyen terme, on peut donc tabler sur une croissance de 83%. 83%. C'est l'avantage de tout péter, ça crée des emplois. Bon, par contre, s'il pouvait laisser mon Solex tranquille. Oui, j'y tiens vraiment parce qu'il y a un autocollant de vous, Julie, de 1973.
Un autocollant Europe avec moi. Oh là là, c'est collector. Bon, on a bien noté. C'est sur votre Solex, hein, c'est ça?
Sur mon Solex.
Parfait. À bientôt, Nicolas. À bientôt. Allez, on va revenir sur ce nouveau week-end de violence à Paris avec Christophe Castaner. Bonjour, monsieur ministre.
Oui, bonjour. Bonjour, madame Julie. Bonjour, monsieur Aliagas. Bonjour, bonjour à toute votre équipe. Bonjour. Merci. Merci encore une fois. Et bonjour à toute la brigade, pardon, de m'accueillir avec cette musique qui me touche, qui rend hommage au premier flic de France, fan de Belmondo, que je crois pouvoir incarner, mais aussi qui rend hommage à mon côté chien-chien fidèle, à son Emmanuel, qui lui ramène ses pantoufles. J'aimerais particulièrement ce matin saluer Nico Saliagas, saluer son travail, saluer saluer les remarques qu'il fait à propos des enquêtes de nos services. De... D'ailleurs, je vous laisse le dire, cher Nico Saliagas.
Oui, des enquêtes de l'IGTPS.
Ça L'IG... va.
Pardon, l'IGFT... L'IGFT... L'IFG, L'IVGTS, l'IGFT,
ça va.
L'IGPS, mon cher Nico. Je ne sais pas comme vous ce que ça veut dire, mais je sais le dire.
On est deux.
Alors, l'Élysée vous a demandé de mettre fin aux fonctions du préfet de police, Michel Delpuech.
Oui, écoutez, nous trouvons que Michel Delpuech a mal géré la crise des Gilets jaunes. Il n'a pas été, il faut le dire, sur le terrain, au contact, je lui ai dit, d'ailleurs, droit dans les yeux à Michel Delpuech. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue.
Non, je l'attendais.
C'est un métier, préfet de police. On peut avoir été classique. Un grand chanteur et pas forcément un bon préfet.
Non, mais attendez, il ne s'agit pas d'un chanteur. C'est Michel Delpuech, pas Delpech.
Hein? D'accord. D'accord. Oui, mais du coup, il a chanté quoi, Delpuech?
Bon, bon, ah bon, laissez tomber. Hein. On va parler des locaux de Benjamin Griveaux qui ont été pris d'assaut à l'aide d'un simple engin de chantier.
Oui, alors à ce propos, je vais être très sévère. Il faut dire stop, stop aux attaques de transpalettes ou aux attentats de chariots élévateurs. J'ai donc décidé, dans la foulée, de fermer toutes les filières terroristes qui ont permis cette agression. Dès demain, je vous le dis sur votre antenne, nous allons procéder à des perquisitions dans tous les Kiloutou, les Loxam, les Leroy Merlin de France. Mais j'ai une bonne nouvelle, car nous avons déjà des idées concernant le cerveau de cette affaire.
Ah, ça serait qui alors ?
Monsieur Bricolage.
Mais quelle enquête ! Merci Monsieur Castaner,
nous
à bientôt. Samedi, c'était donc l'acte 8 des Gilets jaunes, un conflit qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Les tensions persistent, on va recevoir notre président. Bonjour Emmanuel Macron.
Bonjour à toutes et à tous. Bonne année à vous et tous.
Bonjour Monsieur le Président.
On est quoi, cher Cabrol Baudelaire, aujourd'hui, le 7 janvier ?
7 janvier.
Encore donc 358 jours. Si même, oui, mon calcul est bon, je sens qu'elle va être longue cette année 2019.
Vous ne l'avez vraiment pas vu venir, hein, cette colère sociale des Français, Monsieur le Président.
Écoutez, le problème réel, ce n'est pas de ne pas voir...
pas l'avoir vu venir, oui, c'est ça.
J'ai attrapé une aliagacite. Le problème, c'est très facile.
Allez.
Ce n'est pas de ne le pas l'avoir vu venir, c'est surtout de ne pas l'avoir repartir.
N'est-ce
pas, Jean-Michel Apathy?
Alors, Chantal Jouanneau vient de parler des fameux cahiers de doléances sur notre antenne. Vous y croyez vraiment, vous, à cette histoire de cahiers là?
Écoutez, c'est très intéressant de demander leur avis à des gens qui n'y connaissent rien et qui ne sont pas d'accord entre eux, mais nous allons le faire tout de même. Je sens une moue chez vous. Non, on va démarrer tout de suite. Prenons un cahier de doléances. Ouais. Allez-y. Lisez la première idée qui est appliquée.
Alors, je vais
l'appliquer tout de suite, c'est promis.
Alors, la première, c'est abrogation du mariage pour tous.
Oui, alors là, ça, c'est une. Oui, ça, c'est une connerie. C'est une vraie mauvaise idée, on ne va pas le faire. Vous êtes mal
tombé. Vous n'allez pas le faire, non.
Lisez plutôt la suivante.
Celle-ci,
croyez-moi, je vais l'appliquer.
Bon. La suivante, c'est retour de l'ISF.
Oui, alors là, on tombe mal deux fois de suite. Non, ben non, ça c'est nul aussi, ça rapporte rien comme impôt. Bon, encore une idée nulle. Lisez le suivant. On le fait direct.
Ouais.
Allez-y. Directement, on le fait.
Bah, directement, zigouiller Macron, voilà ce que je lis.
Alors, zigouiller Macron, alors, pour être très franc avec vous, j'ai très envie de faire plaisir à mon peuple, mais ça ne m'arrange pas trop. C'est un cahier, je rappelle, de doléances, pas de condoléances.
Oh, joli, bravo, bravo, bravo.
Laissez tomber, je crois que ces idées sont nazes, comme ces idées de cahier d'ailleurs.
Écoutez, on vous souhaite bon courage en tout cas, hein, pour leur mise en application. Allez, un mot de cette incroyable enquête de chercheurs russes. Jeanne Calment ne serait pas morte à l'âge de 122 ans. Il s'agirait de sa fille Yvonne, qui aurait pris l'identité de sa mère pour ne pas payer les droits de succession. Jérôme Cahuzac, bonjour.
La salope.
Une petite réaction. Tiens, allez.
Oui, je le redis, la salope.
Bah, mais ça va pas, non ? C'est Jeanne Calment, la mamie préférée des Français.
Mais justement, Madame Julie, la mamie préférée des Français était une fraudeuse fiscale. Et on l'a adorée pendant près de 20 ans, alors que c'était une véritable arnaqueuse. Il y a donc, je le constate, deux poids deux mesures en France. La France me dégoûte, je retourne aux îles Caïmans.
Allez. Eh bien, salut, Monsieur Cahuzac. Toujours sur cette affaire Jeanne Calment, on va recevoir maintenant Michel Simès. Bonjour Michel, bonjour.
Eh oui, bonjour Marina. Eh oui, vous l'avez dit, pour éviter de payer des droits de succession, à la mort de Jeanne Calment, sa fille Yvonne s'est faite passer pour Jeanne. Elle ne serait donc pas morte à l'âge de 122 ans, pardonnez-moi, mais à l'âge de 99 ans. Mais au-delà de cette affaire, il s'agit surtout d'une révolution dans le monde de la médecine.
Comment ça, une révolution ? On ne comprend pas ?
Eh bien, c'est très simple, Marina. Nous venons d'avoir le secret pour devenir tous centenaires. Il suffit très simplement de changer sa date de naissance. Fallait y penser. Tenez, Julie, voilà, oui. Je vous donne votre nouveau passeport. Mm-hmm. Dorénavant, vous serez né en 1920. Mmh. Et donc, l'année prochaine, vous fêterez vos 100 ans. Oui. Félicitations, vous ne les faites pas.
C'est trop gentil à vous.
C'était Nicolas Canteloup pour bien commencer cette matinale de 2019, puisqu'on a repris aujourd'hui avec ses auteurs et Julie. C'est tous les matins à 8h40 sur Europe 1. Europe 1. Wendy Bouchard.
Eh oui, ravi de vous retrouver, chers amis.
Plaisir
bonjour à tous.
Plaisir de vous revoir. Le tour de la question, tous les jours de 9h à 11h, avec au programme ce matin.
Avec deux questions au programme, chers amis, dans l'actualité. D'abord, la chasse aux fraudeurs du fisc. Fraude, évasion, optimisation fiscale, justement. L'État veut récupérer au moins 17 milliards d'euros chaque année en misant sur de nouveaux outils pour traquer les resquilleurs et notamment les réseaux sociaux. On vous en dira davantage dans un instant. Et puis à 10h, on va s'intéresser au phénomène Houellebecq. Alors, on en a beaucoup parlé. On ne parle même que
sérotonine.
De ça dans l'édition. En
je
ce
l'ai
moment.
Lu pendant les vacances.
Ah bien, il y a quand même 493 romans qui sortent, il y en a un qui est au goût du jour, 320 000 exemplaires mis en place. Un phénomène littéraire, qu'est-ce que c'est et quelle est la recette du succès pour Houellebecq? On en parle jusqu'à 11h ce matin. À tout à l'heure, chers
merci
amis.
Merci, à tout à l'heure, Wendy Bouchard. Vous l'avez lu, Céline Dacosta?
Pas encore, non.
Il est mystérieux, mais c'est,
mais c'est drôle.
C'est
aussi.
Un bon cru, ouais. C'est un bon Houellebecq en tous les cas. Dans quelques instants, on aura un bon Cabrol.
Un bon Cabrol pour la météo. Et puis l'essentiel de la matinale juste avant 9h sur Europe 1.